19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM, émission Time Foot qui commence en ce jeudi 17 juin 2021. Et ce rien que pour vous, chers auditeurs de Beurre FM, on vous le rappelle, on peut réagir avec toute l'équipe de Time Foot en composant le numéro du standard, le 01 53 48 3000 et aussi sur la fameuse Twittosphère. Au menu de cette émission Time Foot, on reviendra sur le match Danemark-Belgique. Notre invité ce soir, Ludovic Adel de la start-up TipTop, expert en paris sportifs. On reviendra sur l'Italie, l'équipe peut-être la plus solide de ce fameux tournoi qu'est l'Euro 2020. Un mot aussi concernant le coup de gueule de LeBron James. N'oubliez pas, Time Foot, c'est tout au long de cet Euro, 19h, 21h, avec toute l'actualité de vos nations préférées, ainsi que les stats, les rumeurs et les résultats. Donc soyez toujours à l'écoute. C'est parti, Google Time Sport.
Time Sport.
Et ce soir avec nous, allez, on essaiera d'avoir Achille par téléphone, notre consultant, sans oublier Abdel. Comment ça va, Abdel ?
Ça va, Bilal, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, très content d'être là.
Ah ben nous aussi, Abdel.
Des très beaux matchs qui ont eu lieu hier soir et cet après-midi, et il y en a un qui est en cours. Donc on espère que on pourra parler de foot et qu'il y aura pas mal d'analyses pertinentes ce soir.
Ah ben on va voir, en tout cas ça promet pour ce groupe B. Samir est avec nous ce soir, comment ça va Samir ?
Salut tout le monde, bah ça va super, hein. Bah comme Abdelhi vient de le dire, je suis assez content de ce qui se passe du côté du Danemark.
Ouais.
Donc on va attendre la fin du match.
Ah ben c'est promis, Yacine est avec nous, comment ça va Yacine ?
Eh ben moi je suis pas content de ce qui se passe du côté du Danemark.
Moi
je pense à mes amis belges, hein.
Eh ben oui.
Avec
lesquels
j'ai beaucoup d'affinités, voilà, et
oui, tu as le droit.
Au défenseur Castan qui s'est blessé.
Ouais.
Alors c'est dommage pour la Belgique qui perd un défenseur de grande valeur.
Ouais.
Voilà, et j'espère qu'ils vont remonter, parce qu'on a besoin quand même d'une équipe comme la Belgique pour vraiment que cet Euro puisse vraiment, au huitième de finale, on puisse avoir les meilleures nations européennes sans enlever aucun mérite
à cette
équipe danoise, surtout on pense au défenseur. Qui a eu son malaise cardiaque. On est Eriksen, on espère que voilà, les choses vont aller beaucoup mieux pour lui. Voilà, mais bon, après, j'ai regardé plusieurs
matchs. Mais là, on ne voit pas tous les matchs, justement.
Une.
Ouais, mais tu en as placé beaucoup, là. Ouais, je peux plus. C'est l'introduction. Tu veux faire.
Je pense que.
Tu as fait un exposé, là.
Si l'Algérie était présente, elle aurait gagné.
Merci. Tu coupes le micro de Yacine. On rappelle pour les auditrices et les auditeurs de Beurre FM, l'Ukraine, Macédoine, dans l'après-midi, 2-1. Et là, c'est en cours, deuxième mi-temps. Danemark-Belgique, 1-0 pour les Danois. Le coach Tollet est avec nous. Eh oui, on pourra le retrouver de suite après aussi, sur la deuxième heure, on le rappelle. Parce que
bon
là, on est avec le groupe B.
Ouais, ouais.
C'est ça. On renforce ce groupe B.
On renforce.
Un petit clin d'œil aussi à Sarah qui n'est pas là.
Tu sais, t'as toujours trois paires de chaussures dans le sac, faut être prêt. Voilà.
Le trio. Tu vois, le trio, là, c'était Samir, Abdel et le coach Tollet.
Voilà. Le trio.
Et toi, c'est le joker.
Ça veut dire moi je suis immobilier quoi. Voilà, je suis l'avant-centre Joker quoi. Moi je suis bon joker.
Immobilier c'est plus qu'un joker.
C'est
plus qu'un joker immobilier.
Pour
une équipe comme la Squadra Azura, je pense que quand on pense à Bitega, Paolo Rossi, je pense qu'immobilier c'est même pas un joker.
Ludovic Adel est avec nous pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM. Comment ça va, Ludovic ?
Ben ça va très bien, Bilal. Merci pour l'accueil. C'est très sympathique. Ouais. Au sujet de la Belgique, moi je suis un peu triste, mais
On va en parler. Allez, c'est le premier sujet. C'est parti sur la Belgique.
Time Sport.
Allez, voilà, le petit coucou à notre réalisateur Yanis. Allez, il va en parler le premier. On va donner la parole après, ensuite à notre invité. Oui, Samir, on t'écoute. 1-0 face aux Danois.
Je vais m'exprimer sur le cas du Danemark parce que
on
sait que j'ai peut-être une lignée de sang qui vient tout droit de Copenhague, alors que pas du tout. Hier, on parlait justement de ce groupe et on se disait, quelles seront les surprises, en fait, de cet Euro. Et je disais que le Danemark, ça pouvait en être une, parce qu'ils ont montré des belles choses avant le début de la compétition. Malheureusement, comme tu l'as dit, il y a eu le cas Eriksen. Je pense que mentalement, ils ont été touchés, les joueurs danois. Et finalement, ils ont perdu.
Pas que les Danois, hein, ça a touché.
Et pas que
tout le monde,
les Danois, bien sûr. Et malheureusement, ils ont perdu. Et ça m'a fait mentir, puisque moi, je voyais le Danemark faire quelque chose. Et quand je dis que ça me fait plaisir, c'est que je suis convaincu que cette équipe a des arguments pour être une surprise dans cette compétition, et ils sont en train de gagner 1-0. Alors évidemment, tout comme vous, j'ai énormément d'amis belges. Je sais pas s'ils nous écoutent ce soir, mais je les salue également.
Abdallah.
Ouais, non.
Alors,
je suis assez d'accord avec Samir, dans le sens où le Danemark, pour moi, ils étaient un peu la deuxième équipe de ce groupe. Pourquoi ? Parce que c'est une équipe qui, en général, joue souvent les grandes compétitions. Elle a l'habitude d'être présente. Même si elle va pas au bout, elle a l'habitude de se qualifier au moins pour le second tour et sortir des poules. Donc à partir de là, voilà, ils ont vécu un moment samedi qui a été très très compliqué.
Sans oublier, c'est la première nation classement FIFA. Hein. Ouais, c'est la Belgique. Hein.
Donc le Danemark est mal entré en scène, mais après il y a eu plein de circonstances. C'est vrai que honnêtement, ils ont pas été si dominés que ça. Samedi lors du match, ils concèdent une occasion, une petite erreur de main, peut-être de déconcentration, etc., qui fait que au final ils perdent le match. Mais ce soir, dans la première mi-temps qu'ils ont proposé, très offensif, il y a eu 6 tirs ou 6 ou 7 tirs du côté danois avec des frappes cadrées, et ils ont étouffé étonnamment la Belgique, qui n'arrive pas du tout à mettre en place son plan de jeu.
Oui,
et il y a une stat qui est importante sur les 28 derniers matchs, justement, les deux matchs perdus par la Belgique, par le Danemark, justement,
ouais,
ça a été contre la Belgique. Deux fois.
Ouais.
Donc peut-être qu'ils sont en train de
leur pose problème,
la malédiction, mais en tout cas, la deuxième mi-temps, vu comment elle est partie, ben, je pense qu'ils vont rester sur le même rythme, et on peut avoir une belle surprise si on peut appeler ça une surprise, vu l'entame de match et vu l'entame de seconde mi-temps.
Ludovic, on le rappelle, notre invité ce soir de Tip Top avec nous, justement.
Ouais. Le Danemark, moi j'ai envie de dire, je vais donner une stat directe. C'est que sur les 10 derniers matchs, le Danemark, c'est 7 victoires. Et sur les 5 dernières fois où ils ont été cotés outsider, du coup, par les bookmakers, en fin de compte, ils n'ont pas perdu dans 3% dans 3 fois sur 5. Et en fait, ce qu'on remarque du coup à travers les stats, ça c'est hyper important, c'est que les Danois, ils sont complètement sous-cotés par les bookmakers. Et comme les joueurs, ils aiment jouer que les favoris, ils tombent dedans à chaque fois.
C'est Samir,
je suis bien content qu'il dise ça. Ouais.
C'est Samir qui disait ça hier en plus.
Non, c'est
Samir, je crois qu'on parlait.
Depuis tout à l'heure, il s'appelle Sam Eriksen.
Ah ben, Sam Eriksen.
Sam Eriksen.
C'est ça, ouais.
Voilà.
Donc, le coach étonné.
Il a dit qu'il avait du son.
Lui aussi. Il vit à Göteborg, alors arrête, Yacine.
À Göteborg, c'est pas le Danemark.
Oui, je le sais bien. Ok, allez, Sam.
C'est les amis, c'est les voisins.
C'est ça, c'est les Scandinaves. Oui, vas-y, Samir.
Comme quoi, pour le coup, là, les stats à rejoindre ce qu'on essaie de dire depuis tout à l'heure, comme quoi ça peut être effectivement
aussi, Abdel.
Tu vas jamais voir le Danemark comme un pays favori, tu vas pas le mettre sur le même plateau avec l'Allemagne, avec la France, avec le Portugal. Tu vas le mettre en dessous, tu vas le mettre dans les outsiders. Mais pour moi, alors je sais pas s'il y en a autour de ce plateau qui ont vu le match amical contre l'Allemagne avant le début de l'Euro, mais c'était pas mal du tout ce qu'ils ont fait, les Danois. Donc, moi ça me laisse penser que
match nul,
belle équipe.
Parce que le Danemark, la Norvège, l'Islande, la Finlande, c'est-à-dire que c'est un football qui n'est pas du tout médiatisé. Donc automatiquement, les bookmakers ne vont pas forcément... on ne trouve pas souvent des grands joueurs danois. Voilà, il y a des fois des joueurs qui émergent par-ci, par-là. Mais ouais, ils n'ont pas de grandes stars pour que les gens s'y intéressent. Mmh. Donc aujourd'hui, quand vous êtes bookmaker, on va dire aussi la France, quand vous regardez la composition d'équipe de la France... C'est très compliqué de ne pas parier sur la France. Mais après, sur le terrain, la réalité du terrain est autre. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, le Danemark le démontre, malgré leur défaite contre la Finlande, malgré ce qu'ils ont vécu, et on pense que ce groupe, il vit très bien le collectif, et mentalement, c'est très 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 costaud. D'ailleurs, quand on voit la qualité de la première mi-temps qui est réalisée par ces Danois, moi je suis pas étonné du tout de les voir au moins
on le croit. Alors à Samir et nous aussi à notre invité
Samir, pour faire un comparatif un peu avec ce qu'on disait hier sur la Turquie,
oui, Abdel.
Où notamment on voyait une somme d'individualité, on espérait que ils fassent quelque chose la Turquie. Et ben le Danemark, qui a des joueurs
à côté, hein,
beaucoup plus expérimentés, avec des joueurs, même si ils sont pas mis en avant médiatiquement comme le dit Yacine, ils jouent pour la plupart dans les plus grands championnats. Il y a des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions récemment, qui ont gagné des championnats nationaux. Et on les, Eriksen, je pense qu'ils sont assez sous-cotés. Ouais. Sous-cotés, c'est pas une honte, ou ça veut pas dire qu'on les voit aller chercher le titre, ou voir ou le dernier carré. C'est une équipe qui peut poser des difficultés, qui a une patte dans le jeu. On en parlait vendredi en ouverture avec Yacine et tout le reste du groupe. C'est un ADN qui vient là-bas des pays nordiques, qui ressort de plus en plus. Il y a eu des joueurs par le passé, peut-être un peu plus aujourd'hui, qui crèvent l'écran. Et je trouve que on devrait faire beaucoup plus attention à ce genre d'équipe parce que c'est plein de petits profils c'est, qui jouent bien au ballon que, et je pense qu'il faudrait faire
attention.
Que,
c'est parce que historiquement, pardon, au niveau de l'Europe occidentale, on s'intéresse pas à la Suède, au Danemark. La Finlande, c'est encore quand même en dessous.
Un peu moins la Suède, parce que dans les années, c'est quand même la fin des années 50, ça a été l'une des plus grandes nations européennes.
Oui, donc, mais tu vois déjà que même nous, déjà en France, l'Allemagne, on redécouvre la Bundesliga. On n'en parlait quasiment pas, en parle un petit peu plus depuis quelques saisons, ouais. Parce que tu as des Français. Après, là où je te rejoins, c'est que...
L'égalisation de la Belgique.
Là où je te rejoins, c'est que le Danemark a par période eu... quelques stars par-ci par-là, mais n'a jamais eu vraiment de continuité, mais a toujours fait partie, allez, on va dire, du top 15, top 16 des meilleures nations européennes, sans faire grand-chose, excepté la victoire en 92, qui était donc l'invité surprise, qui avait remplacé la Yougoslavie.
Juste par rapport à Abdel parlait des profils des footballeurs venant des pays nordiques ou des pays scandinaves. On sent que la formation de ces pays-là, du footballeur, elle a complètement changé et ne s'inspire plus. Parce qu'avant, on travaillait sur les gros gabarits, la force physique, la puissance. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de joueurs très techniques. Voilà. Et je pense que les Islandais, les Danois, les Suédois, Norvégiens se sont beaucoup inspirés des Espagnols. Et on voit beaucoup des joueurs qui ne sont pas forcément très grands ou très costauds, mais techniquement, c'est pas mal. Et ça me rappelle la grande équipe du Danemark, Dilker Larsen, qui est franchement des Poulsen, qui avait vraiment... je pense à cette époque-là, c'était une des trois ou quatre meilleures nations du monde.
Alors, oui, le coach étonnant, on poursuit. Ou peut-être on a une personne au téléphone qui composait le 0153-48-3000. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un? On a quelqu'un? Non. Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, allô. Bonsoir.
Bonsoir. Ouais. Comment ça va l'équipe?
Ça va très très bien, Fala.
Ouais,
c'est ça.
Bonjour,
ouais, c'est
à
ça. On vous écoute, Fala.
Voilà. Déjà pour revenir sur ce match entre le Danemark et la Belgique, et franchement, faut saluer la prestation des Danois aujourd'hui, là, surtout la première mi-temps qu'ils ont faite, parce que on s'y attendait pas. Mais avec l'histoire, justement, le fait que Eriksen ait ce malaise. Lors de la première rencontre, je pense que ça les a tous remobilisés, toute l'équipe, et on le voit bien, parce que le coach a fait une déclaration disant que s'il y a des joueurs qui n'étaient pas prêts à vouloir.
On l'a perdu, notre ami Fala. On l'a perdu. Donc il était en train notamment de nous dire que l'incident qu'il y a eu avec Eriksen a peut-être galvanisé, remobilisé la sélection danoise.
C'est qui tout double, hein, ce genre d'événement. Soit ça peut te mettre, on va dire, la tête dans le sac et tu penses vraiment pas à ta vie de sportif, tu passes à ta vie personnelle. Soit, voilà, vu la physionomie du match avec cet événement plus la défaite, tu te dis que faut aller chercher quelque chose, faut aller mettre en difficulté une équipe comme la Belgique, chose qu'ils ont très bien fait, comme on l'a dit depuis le début du match. Ils se sont fait égaliser comme l'a dit Samir, mais voilà, c'est un peu logique. Il peut avoir un temps faible dans des matchs, mais c'est pas, le score souvent ne reflète pas forcément les performances de certaines équipes. Mais voilà, ils sont comme on le répète depuis tout à l'heure, c'est une équipe très intéressante sur le papier comme sur ce qu'ils nous ont démontré depuis un match et demi. Donc à voir.
Et puis on peut aussi parler de matchs à domicile. Là, il y a le public. On n'a pas parlé de ça depuis tout à l'heure. Ça fait un moment que maintenant, malheureusement, on n'assiste plus à des matchs avec des tribunes remplies. Puis pour tous ceux qui sont devant le match,
ça fait du bien.
Ça fait plaisir, ça fait du bien parce que le stade
vous donne la vie.
Est blindé d'un mur rouge.
Juste pour le rappeler, il faut savoir que les Danois ont demandé le report du match et l'UEFA n'a pas accédé à leur doléance. Voilà.
Donc, c'est vrai. Voilà, donc, c'est vrai, Yacine. Allez, page de pub, on se retrouve juste après.
Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Toujours dans la bonne ambiance avec Yanis, notre fameux réalisateur. Et oui, on aimerait tant le connaître, Abdel, qui est avec nous, Samir, le coach Tolé, Yacine, notre globe-trotteur, reporter, et je ne sais encore, ouais, préparateur.
Non, préparateur, non.
Ouais. Non.
Préparateur de frites.
Belle. Ah oui,
de comment,
ouais.
Ouais.
C'est ça.
J'aime bien préparer la cuisine, c'est mon autre passion, ça c'est sûr.
Tu les fais cuire en deux cuissons, les frites, du coup, toi?
Il connaît.
Bien sûr, 140 degrés et 190 ensuite.
Ah oui, Adil, il n'est pas qu'informaticien.
C'est le degré qui est là. Il est avec nous, Ludovic.
Il m'impressionne, hein, surtout quand
il est bon, Ludovic.
Il nous a donné les statistiques sur le Danemark. Ouais. Je me suis dit, hein.
On va en parler. Hein? Allez, c'est promis, on va en parler.
Tu ne me respectais pas au début, maintenant, hein? Ça va mieux.
Ah, il te respecte, Ludovic. Ludovic, il est taquin. Ah, ben là, on aura tout vu.
Ah, moi, je me sens bien, je vais revenir, les gars.
Il n'y a pas de problème.
Rien qu'il a dit ça, je pense qu'on va faire affaire ensemble sur Shoot Africa.
Ah, ben ça, c'est pas mal.
Je le sens.
Ça, c'est pas mal.
Ça mérite quand même.
Oui, avec un bon petit pain cabine, ça ferait du bien.
Ouais, exactement.
C'est ça? Voilà. Ouais, sur Choka aussi, pas mal.
Sur Choka?
Ah, on a changé d'émission. Pardon.
Ouais, de temps en temps, il est 19h25, il y a des gens qui sont à table, ils aiment bien avoir un petit peu de. On va leur donner envie.
On a perdu le côté de lait aussi. Et voilà, et
Bilal, je suis Danemark et Belgique pendant qu'ils nous racontent
une petite chouka culinaire. Avec un petit peu de galette, avec un bon Hamoud Boualem.
Oh là là.
Mais quelque chose à Hamoud Boualem blanc.
Ah, ok. C'est moi, c'est de ma faute.
C'est terminé.
Ça
y est, c'est fini.
Oui, c'est fini.
C'est terminé.
Allez, passe à l'invité.
Par contre, le jour où on parlera de la cuisine slovène, on aura franchi un cap.
Bilal, c'est ce que j'allais dire.
Comment on peut passer du pain kabyle et de la chouchouka à l'invité là? Comment on va faire la liaison?
C'est vite fait.
Il y a Samir qui nous fait cette fameuse transition. Allez, c'est parti.
Time Sport. The special one.
Ouais, il est spécial en tout cas. C'est Ludovic Adel pour la première fois avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Professionnalisme, la vie de parieur, c'est Tipstop, justement, le site internet. Comment vous est venue cette idée? Voilà, c'est avec cette plateforme. Dites-nous tout aujourd'hui.
On peut se tutoyer.
Ça va bien
se passer. Ouais. Ok. Alors du coup, moi, c'est une application mobile avant tout et un site internet. Qu'est-ce qu'on fait? On est l'équivalent d'un flash résultat ou de SofaScore, mais pour les parieurs. C'est-à-dire qu'on donne des statistiques qui sont directement orientées pour les parieurs. On va te dire, par exemple, quand il était outsider, combien de fois il a gagné? Quand il était favori, combien de fois il a gagné? Si t'avais misé 10 fois sur lui, combien t'aurais gagné? Voilà, toutes ces choses-là et des outils professionnels pour aider les parieurs à mettre de la rigueur dans ce qu'ils font, hein, et ne pas miser leur maison comme beaucoup font.
Les parieurs à se professionnaliser.
Ouais, alors se professionnaliser, pas dans le sens où tu peux vivre de ça, parce que ce serait pas un beau message que je passerai aujourd'hui, mais dans le sens, en gros, je mets de la rigueur dans ce que je fais, j'ai envie de le faire sérieusement, et je prends un minimum de risque pour, voilà, kiffer de temps en temps et essayer de gagner un peu d'argent.
Ludovic, justement.
Alors, vas-y, Abdel.
On peut pas se professionnaliser parce qu'on sait que c'est assez compliqué, et actuellement, il y a des polémiques sur, justement, les paris sportifs. Qu'est-ce que
ça a toujours existé, Abdel?
Non, je sais.
Ça a toujours existé.
Mais en ce moment, mais là, il a pas tort.
On en parle de plus en plus.
Bien sûr.
Qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que c'est quelque chose qui va pas affecter ton métier, mais ton point de vue là-dessus, j'aimerais bien le connaître.
Alors, c'est une super question. Il y a deux problèmes, hein, des paris. Il y a un, le côté un peu addiction, où en fait, tu joues et t'as envie de rejouer, que tu gagnes ou que tu perdes. Ça, c'est hyper important et c'est lié, en fait, au principe de cote. Et parce qu'il y a des matchs toute la journée, tu peux jouer sur la D2 polonaise, tout ça. Donc ça, c'est un premier point. Et l'autre point qui est mis en avant dernièrement, je pense que c'est à ça aussi que tu penses, c'est les fameux pronostiqueurs qui te vendent monts et merveilles sur des performances qui sont bidonnées, sur des croyances qui sont erronées, qui vont en fait te faire payer un service auquel tu vas ne pas pouvoir te désabonner. Et en fait, il va rien se passer du tout. Et en fait, on te vend du vent.
Ouais. Voilà.
Et donc ça, c'est un problème. Et donc j'en profite d'être à l'antenne pour faire beaucoup de pédagogie.
Le pari en lui-même, c'est du vent.
Non, le pari en lui-même.
C'est le match. Soit ce soit dans le football ou dans n'importe quel sport, ça se déroule dans l'éthique. Personne ne peut dire, à moins que c'est l'Argentine qui joue contre les Fidji en football, tu es sûr que c'est l'Argentine qui gagne.
Ouais.
Mais bon, sinon, c'est compliqué.
En tout cas, c'est moins compliqué ce que vient de lancer notre invité, Ludovic. Hein. C'est assez fou quand même.
Bon, écoute, ça c'est fou. Ouais, on a 100 000 utilisateurs, donc vous pouvez tester l'application. Ça c'est gratuit, hein, y a pas de souci. Maintenant, juste pour répondre à la question de ces bidons, en fait, pas forcément, parce que
Paris, c'est bidon.
Alors, je sais pas dans
ça n'oublie aucune logique. Un pari, c'est un pari, c'est-à-dire balancer quelque chose. Comme ça peut, on va dire le pourcentage de vérité ou le pourcentage de mensonge. Bah, je pense que c'est
les cotes, une cote, c'est le reflet d'une probabilité. Ok, c'est le bookmaker qui dit ok, lui, il a tant de chances de l'emporter, la cote elle est à.
Ouais, c'est des calculs mathématiques. Okay.
C'est basé sur des faits qui sont, c'est basé sur plein de faits qui sont la composition de l'équipe, est-ce que les joueurs ils sont performants ou non, quel est l'historique, plein de choses comme ça, des choses qu'on ne voit pas aussi. Ça s'appelle les expected goals, les goals attendus. Mm-hmm. Je vous fais la traduction rapidement. C'est par exemple, vous avez un joueur qui a loupé une occasion alors qu'il était face au but et finalement le match s'est terminé en 1-1. Il aurait dû avoir 2-1. Ce que le parieur va voir, c'est qu'il y a eu 1-1. Ce que le bookmaker va voir, c'est qu'il aurait dû avoir 2-1. Tu vois, et ça, en fait, ça va contribuer en fait à construire la cote. Et dans ce sens-là, ah pardon, il y a eu égalisation. Non, pardon. 2-1 pour la Belgique.
Voilà, c'est ça. Kevin De Bruyne.
De Bruyne.
C'est De Bruyne.
Retour gagnant.
C'est on ça. Parlait de fin de match.
On ouais. lâchait l'invité.
C'est vrai.
Et donc, du coup, sur les paris, oui, ça repose sur quelque chose. Maintenant, est-ce qu'il y a toujours une part de hasard qu'on ne contrôle pas? Ok, pas Eden Hazard, hein, mais ouais. hasard vraiment. Ouais. Oui, effectivement,
c'est
il y a toujours une part de hasard.
Qui a égalisé. Hein, c'est ouais, un hasard.
Ludovic, alors, par rapport au fait des gens qui mentent un peu dans ce milieu-là pour avoir.
Pour gagner beaucoup d'argent.
Pour gagner de l'argent, etc. Comment aujourd'hui vous faites pour qu'on vous fasse confiance,
ouais.
Mis à part le nombre de personnes qui sont abonnées ou qui vous suivent, comment on fait pour croire des personnes qui se lancent dans ce genre de, on va dire, de pratique?
Alors, je tiens à préciser, nous ne sommes pas pronostiqueurs. Nous, on doit un devoir de neutralité.
C'est ça.
Si vous allez sur notre Instagram, par exemple.
Un peu comme les journalistes, quoi.
Ah non, mais on fait du data journalisme.
C'est
nous, on ne donne jamais notre avis parce qu'on ne sait pas dans quelle main ça tombe.
Ouais.
On ne sait pas
dans quelle main ça tombe.
On donne des stats, on donne ce qu'on appelle des enseignements. Ouais. Tu prends ta décision. Quand tu paries, c'est ton argent, tu vois. C'est à toi de prendre ta décision. Et si tu suis aveuglément les gens, non seulement en fait tu vas suivre des gens qui mentent sur leur performance la plupart du temps,
ouais.
et en plus de ça en fait tu vas bloquer ton apprentissage, qui fait que tu, dans les paris, il faut payer pour apprendre, c'est-à-dire il faut perdre parfois pour apprendre, et si tu suis des gens, bah tu pourras pas apprendre en fin de compte.
Alors Samir, mais une réaction avec Ludovic.
Quelque part, vous donnez des conseils et vous influencez justement les gens qui souhaitent faire un pari sur un match. J'ai bien aimé la question d'Abdel, puisque moi je me dis en fait comment on va faire pour en même temps conseiller les futurs parieurs, mais en même temps rester dans la bienveillance pour vous distinguer justement en fait des autres applications qui font la même chose que vous. Comment on fait?
Encore une fois, on donne pas de conseils. Ce qu'on fait, c'est qu'on récupère des milliers et des millions de données par an. Ok, les données, c'est quoi? C'est les données que vous trouvez sur les sites de LiveScore. Donc c'est les résultats, et nous en fait on les compile avec les cotes. Et par exemple, on va te dire ce que tu n'es pas capable de voir à l'œil nu sur un site comme Flash Résultats. On va te dire quand lui il était outsider, il a gagné. Quand lui il était favori, il a gagné. Il y a eu le plus de 2,5 buts. Il est passé tant de fois à domicile et toutes ces choses-là sur 9 sports. Ok. Donc nous, on donne de la data qui est déjà en fait de la donnée qui est prête à l'emploi, mais sans faire d'indication sur il faut que tu joues ça ou quoi que ce soit. Et tout sur notre application, tu pourras voir, il y a des explications qui disent attention, ne pas en tenir compte, voilà.
Ça c'est bien. Et est-ce que vous arrivez à jauger ou à estimer le montant d'un pari? Vous donnez des conseils sur combien parier sur un match ou pas du tout?
Jamais, jamais, jamais. C'est pas notre devoir en fait. En fait, si on fait ça, on se foire totalement. Tu sais pourquoi on le fait pas? La raison, elle est simple, c'est que même si j'étais sûr de moi, en fait, j'aurais jamais 100% raison. Et il suffit que même si j'avais 99 fois raison et que j'ai une fois tort, le mec il s'en rappellera et on va le payer, tu vois. Et donc à partir du moment où je peux pas garantir le résultat, ben je donne rien.
Alors on va aller beaucoup plus loin, Ludovic. Justement, c'est une genre de plateforme un peu de ton régulation quoi. Est-ce que vous êtes comment vous êtes perçu de la part des ministères aujourd'hui? C'est à utilité publique. Alors,
l'autorité en France qui régule avant ça s'appelait l'ARJEL, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle l'ANJ maintenant, c'est l'Autorité nationale des jeux, qui sont en train de mener un combat contre les pronostiqueurs.
Ouais.
Ok. Donc, nous, on est intervenu pas mal ces derniers temps dans les journaux pour prendre position sur certaines choses. Nous, on fait la nuance entre, il y a des gens qui donnent des conseils gratuitement sur les réseaux sociaux et qui sont bienveillants. Ok. Il y a des gens qui sont bien intentionnés, qui en fait aussi éduquent les gens, et ça, on n'en parle pas assez, malheureusement. Et il y a des gens en fait qui sont mal intentionnés, qui font plus de mal qu'autre chose. Nous, notre parti pris, c'est de dire en fait, le seul moyen en fait de faire évoluer les gens, c'est d'amener une certaine pédagogie et de les accompagner au quotidien avec une vraie stratégie de mise aussi, ce qu'on fait aussi sur notre application.
Mais excuse-moi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire quand aujourd'hui la télé, toutes les télés quand elles balancent, elles vous disent ce dimanche il faut jouer, il y a 10 millions d'euros à gagner. Qu'est-ce que peut peser quelqu'un qui va lui dire attention, ne fais pas ça, ne fais pas ça? Ben, tout le monde rêve de gagner. Tout le monde.
Bah, quand c'est le principe voit, même des paris sportifs, c'est que ça joue sur la croyance.
C'est très difficile de dire aux gens. Donc c'est même l'État ne peut absolument rien faire contre.
Alors
parce que elle-même, la Française des Jeux qui appartient à l'État, quand on voit combien d'argent à l'engrange dans les jeux,
ça
rapporte énormément d'argent aux caisses de l'État.
Il faut le rappeler. Face au surendettement.
La Française des Jeux ramène beaucoup, beaucoup d'argent à l'État.
Ouais.
C'est vrai.
Ouais, bon, ça c'est. Comme
3 milliards, si je dis pas de bêtises, je crois.
Et 3 milliards.
C'était 13 milliards de chiffre d'affaires et je crois
aussi,
que c'est.
Même aux États-Unis. Oui, Abdel. Dites,
justement, comment vous avez décidé de vous lancer, entre guillemets, dans cette industrie parce que c'est pas quelque chose qui est.
Qui est commun.
Qui est commun, exactement. Et le fait de voir que, entre guillemets, c'est pour professionnaliser ceux qui parient, etc. J'aimerais savoir voilà comment vous êtes arrivé.
Bah l'histoire c'est que moi je jouais en bourse avant, voilà, je boursicotais, que j'ai appris sur des sites comme Boursorama,
qui vient de choses personnelles un petit peu.
Alors ouais, totalement,
c'est là-bas qu'elle a fait
fortune. J'adorais ça et puis j'aime voilà un peu investir, tester comment ça marche et tout ça.
Et l'expérience c'était comment ?
Bien, j'ai payé ma dernière année d'études mais je devrais pas le dire parce que ça va donner des mauvaises idées à certains. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est que moi j'étais pas un gros fan de sport à la base. Okay. Et que je cherchais des infos justement pour parce que je m'étais mis au pari sportif, mais tu vois, je voulais vraiment, tu vois, adopter une stratégie et gagner, quoi. Tu vois, je voulais pas juste balancer des billets et pas savoir où j'en étais. Non, je suis pas informaticien. Moi, je vendais des céréales avant. Ouais. Ouais, j'étais un céréal killer.
Il est pas mal. Vas-y, Ludo.
Merci.
Vas-y.
Et pour la petite histoire, en fait, je cherchais des infos et souvent je tombais sur des gars qui disaient ouais je gagne et on trouvait pas, en fait j'arrivais pas à savoir si ce qu'ils racontaient c'était vrai, et donc on a commencé à monter une plateforme qui certifiait les performances des mecs, donc ils pouvaient pas tricher chez nous. Et de fil en aiguille, en fait, les mecs ont vu qu'on avait des données, ils ont commencé à nous demander des services et on a pivoté, ce qu'on dit dans le business, on a pivoté. Maintenant on a enlevé la partie pronostic aussi pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, parce qu'on ne veut pas influencer, et on s'est orienté vers du coup une plateforme uniquement de données
d'information,
ouais, la donnée et des outils pro. On va t'alerter par exemple quand les cotes elles ouvrent.
Vous faites ce que vous voulez.
Exactement.
Ouais.
Pour tous les niveaux.
C'est multisport.
Au 9 sports, ouais. Dont le foot, c'est 60% des mises en France, hein, et après t'as le tennis, le basketball et les autres sports, jusqu'au foot.
Mais c'est le football, qui rafle
60% des mises, c'est le foot. Ouais.
On peut trouver des nouveautés
dans
votre application.
Oui, tip top.
Qu'est-ce qui
on le rappelle.
Qu'on va aller sur votre application et pas sur une autre. Qu'est-ce qui vous distingue?
Bah, en fait, c'est la facilité, la grille de lecture. Tu vois, quand tu es sur une. Alors, je vais les citer, hein, les autres, parce que bon, on n'est pas à leur niveau encore, c'est des millions d'utilisateurs. Quand tu vas sur un flash résultat, tu vas voir en gros juste ce qu'on appelle. Le réflexe d'un parieur, c'est de dire ok, il y a un pari, je vais sur un site de bookmaker, et en fait le site de bookmaker, il va tout le temps te mettre les matchs qui vont commencer rapidement, parce qu'en fait il veut que tu prennes une décision rapidement, et ils vont te mettre aussi les matchs qui ont la plus grosse audience. Pourquoi ils font ça, en fait? Parce qu'il y a beaucoup de il faut qu'il y ait beaucoup de liquidité sur les matchs pour pouvoir en fait arbitrer entre le choix de l'équipe 1, le choix de l'équipe 2, et qu'ils soient gagnants dans tous les cas. Ok, nous notre stratégie, elle est inverse, elle est de dire ne fais pas un choix sur un match qu'on t'a imposé entre 1, x ou 2, viens chercher en fait des opportunités auxquelles tu n'aurais pas pensé, ok, via de la data, et ensuite tu prends ta décision parce que c'est ton argent. Donc nous, c'est comme ça qu'on inverse la tendance. Et après sur les données en tant que telles, c'est que on a tout qui est prêt, et donc du coup en un coup d'œil t'es capable de lire ce que tu ne pourrais pas lire ailleurs.
Est-ce que vous êtes sollicité par les sites de Paris d'ailleurs? Est-ce que vous collaborez avec eux?
Ils font
eux
peur à mon avis.
Non, pas forcément, parce que si tu veux, nous, il y a pas les bookmakers, c'est pas les grands méchants loups. Nous, on bosse avec eux pour parier. T'as besoin des bookmakers, ok? Ce que les gens ne voient pas forcément, c'est qu'en fait, tu joues toi, si tu joues sur un truc et que moi j'ai joué l'inverse, on a joué l'un contre l'autre à travers un bookmaker. Okay. Donc t'as une offre et une demande, c'est juste que le bookmaker, tu vois, il arbitre.
Mais vous,
on collabore, oui, on fait un collabore.
Vous, quelque part, vous êtes le prestataire de service d'un site de Paris,
non,
parce que vous donnez les outils aux parieurs de pouvoir faire leur choix.
Nous on utilise déjà une certaine les données qu'on utilise. Il n'y a pas beaucoup de prestataires de données dans le monde sur la partie sport. Et on utilise les mêmes qu'utilisent les bookmakers. En fait, c'est les mêmes. Okay. Après, c'est juste que nous, on a construit nos algorithmes derrière et nos outils. On affiche aussi les cotes des bookmakers. Donc, tu vois, il y a des gens qui viennent chez nous pour voir où est-ce qu'elle est la meilleure cote.
Ouais. Vous êtes une start-up?
Alors, on est une start-up.
Il y a combien de personnes qui bossent chez vous?
Alors, ça intéresse, parce que c'est vrai, pour toutes ces données, uniques et fiables, comme vous le dites.
On est à peu près 4 personnes en France, et ensuite, on a 3 développeurs en Tunisie. Hein, ouais. Tunisie numéro 1 sur en termes de développement, je vais te faire plaisir. Fax, et on a une personne en Inde.
Ah oui, ah ben c'est bien.
Voilà.
Le monde.
Et on bosse
sur l'Inde, la Tunisie, donc c'est l'Afrique du Nord, l'Afrique.
Ouais. Et on a même un gars qui ont fait appel en Égypte aussi.
Et donc, parce que tout à l'heure, en off, il nous parlait, il disait que les Africains, c'était des grands joueurs. Ils jouaient énormément.
C'est assez problématique, je vais t'expliquer pourquoi.
Le
pari sportif, tu as une forte croyance au gain, et ceux qui ont la plus forte croyance, c'est ceux qui ont le moins d'argent, malheureusement. Et en fait, on a beaucoup d'utilisateurs en Afrique qui veulent venir pour. Ils me demandent même, en fait, tous les jours, ils utilisent le mot coupon pour avoir des pronostics en Afrique. Donne-moi des coupons. Ou alors, ils me disent, est-ce que je peux parier chez toi? Parce que là-bas, ils n'ont pas de carte bleue. Enfin, alors, je ne parle pas en Maghreb. Hein. Je parle plutôt dans certains pays où ils payent par les SMS, Orange Pay, tout ça. Là. Et en fait, c'est hyper problématique parce qu'ils voient le jeu, tu vois, vraiment comme un moyen de gagner de l'argent rapidement. Et nous, en fait, on est impuissants face à ça. Quoi. Ouais. On fait de la pédagogie, en répondant à tous
et
les
mails. Et vous la mettez en avant. Et oui, c'est ça, Claude.
Ouais, moi,
avec tes élèves.
J'ai trop joué de divorce.
Voyons.
J'ai arrêté de divorce. Ah oui. Au moment, voilà, il faut se résoudre.
C'est bien, c'est un témoignage. C'est un témoignage qui est.
Ça.
Quand même, c'est
ça pas. Il faut
faire attention avec les jeux.
Ça fait ce que disait Adil, ce sont souvent les catégories de personnes les moins. Les plus fragiles qui essayent de gagner, malheureusement.
En tout cas, c'est Ludovic Adel. Hein. Mais voilà.
Adil.
Ça, c'est toi qui le fais sur l'antenne de Beurre FM. Je ne sais pas pourquoi.
Il a dit que c'était Adel.
Merci, Ludovic, d'avoir été avec nous. Il reste jusqu'à la fin de cette première heure, jusqu'à 20h. Et après, on enchaînera aussi sur le match de ce soir, 21h, avec l'autre groupe. On a la personne du coach Tollé. Vous restez à l'écoute pour la dernière partie de cette première heure.
Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM pour cette dernière partie de la première heure. Time Foot 19h, 21h. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Le numéro du standard, on le rappelle. Faites comme Fala. Vous composez le 01 53 48 3000. Toujours en compagnie de Ludovic Adel, notre invité ce soir de Tip Stop. Voilà cette fameuse plateforme. Super sympa. On donne même le site internet. C'est Tip Stop. TIPSTOP.co. C'est bien ça.
C'est exactement ça, et voilà. Sur les stores aussi, si tu veux.
Voilà, ça c'est Ludovic qui le dit à l'antenne, toujours en compagnie de Yacine, du coach Tollé, de Samir, ainsi que d'Abdel. Allez, on va passer au match d'hier soir qui a eu lieu entre les Italiens, les Helvètes et les Suisses.
Time Sport. Le duel.
Ah oui, l'Italie, 3 buts à 0, encore une fois. 2 buts à 0 et il fallait attendre la fin. 3 buts, le dernier de cette fameuse rencontre. L'Italie est-elle l'équipe la plus forte de ce fameux tournoi?
Jamais,
c'est Abdel qui le dit. Eh ben vas-y Abdel, vas-y.
J'avais envie de parler d'Italie, donc on lui donne le privilège.
Pourquoi jamais?
Je pense qu'il y a des équipes plus fortes et qui ont montré bien plus de personnalité, je les citerai plus tard maintenant.
Alors,
l'Italie, c'est une équipe, certes, qui a mis deux fois 3-0 là, sur ses deux premiers matchs. Je trouve que.
Ça n'arrive pas souvent dans une phase finale d'Euro.
C'est vrai. Honnêtement, je suis assez surpris par le nombre de buts marqués, pas par la puissance offensive, parce que pour moi.
Surtout qu'ils sont. Surtout, c'est pas que. Ils marquent que des buts. Il faut savoir que ça fait 10 matchs qu'ils n'ont pas encaissé aucun but.
Ça,
il faut le préciser. Hein. Ils marquent et en même temps, ils n'encaissent pas. Donc, c'est complètement.
J'y viens, Yacine, justement, par rapport à ça. Pour moi, ils sont impressionnants parce qu'on aime voir pas mal de buts dans ces matchs-là. C'est vrai que ça fait 5 ans qu'on ne les avait pas vus en compétition européenne. Par contre, j'ai mes des doutes et je me projette déjà sur s'ils affrontent une équipe avec des joueurs rapides offensivement ou des équipes de contre. Je pense que potentiellement avec la défense qui est assez vieillissante, je parle de l'axe central, ça peut leur poser des problèmes. Et dans la série qui tiennent en ce moment de 10 matchs sans avoir pris de but, il faut savoir qu'il n'y a pas non plus des grosses équipes avec un gros potentiel offensif. Faut respecter tout le monde, mais voilà, on connaît un minimum le football et on sait que dans ce genre de compétition, c'est là où il y a les 24 meilleures équipes. On sait que ça va être la guerre, et je pense que s'ils avancent dans la compétition, s'il y a des équipes qui jouent justement leur va-tout offensivement, ils vont être en gros difficulté. Mais attention, l'Italie, pour terminer, c'est une équipe qui, même s'ils vont en quart, même s'ils vont en demi, ils auront redoré le blason parce que ça fait 5 ans qu'on les a pas vus. Donc, on va pas les attendre trop loin dans la compétition. S'ils sont là et qu'ils reviennent sur le devant de la scène, très bien. Mais s'ils vont pas au bout, on leur en voudra pas. Mais pour moi, c'est pas l'équipe qui a le plus prouvé, notamment dans le jeu, depuis le début de la compétition.
Oui, Yacine.
Ouais, moi je trouve que Mancini a complètement transformé la squadra azzurra. Il leur a donné vraiment une âme. quand il parlait de son absence depuis 5 ans sur la scène européenne ou la scène internationale, mais je pense que toute nation, toute sélection, il y a des hauts et des hauts, et à un moment donné, on peut connaître des moments de flottement. C'est ce qu'a connu l'Italie ces dernières années, mais je pense leur élimination de la Coupe du Monde 2018, ça a été le déclic. Ils ont pris vraiment une vraie claque. Et là, ils ont commencé à travailler. Ils ont travaillé sur leurs faiblesses. Mancini a énormément travaillé. D'ailleurs, quand on voit aujourd'hui la squadra azzurra, ce n'est plus l'équipe qui vraiment construisait tout autour de la défense, même s'il reste quand même, ils ont toujours une défense assez solide, mais c'est un mélange entre les anciens, Chiellini, comment il s'appelle l'autre Bonucci. Mais après, c'est une équipe pratiquement jeune. On a des joueurs qui ne jouent pas dans de grands clubs, à l'image de Locatelli aujourd'hui, qui a été recalé par le Milan AC et se retrouve à Sassuolo, là où aujourd'hui, je pense apparemment, selon des dernières informations, et pratiquement c'est acquis pour la Juventus de Turin. Ce qu'il fait aujourd'hui, Locatelli, c'est exceptionnel. Ça fait très longtemps, on n'a pas vu ce profil de joueur dans le championnat italien. D'ailleurs, il a pris la place, on va dire, poste de Verratti. À un moment donné, on avait parlé de ils n'avaient pas un attaquant de pointe, mais quand on voit tout à l'heure, je mettais un peu en off des pics pour Ciro Immobile, mais ouais, malheureusement, il est là, il répond présent. Pour moi, aujourd'hui, ils ont pratiqué le meilleur football, mais après, Marseille, ils ont joué la Turquie qui est complètement absente. Méconnaissable. La Suisse aussi, avec le potentiel de joueurs qu'ils ont, d'individualité. Hier, ils se sont contentés uniquement de défendre. Je pense qu'aujourd'hui, l'Italie peut prétendre à être dans le dernier carré.
Avant de donner la parole. La puissance offensive, il y a un joueur qu'on n'attendait pas forcément. Petit clin d'œil à Berardi qui fait pas mal de bien. C'est des joueurs comme ça que j'aime voir, qui sont pas forcément attendus dans le 11. On profite, mais comme Chiesa.
Même lui, il aime bien te voir.
Ah, bah j'aimerais bien. Non, mais il y a des joueurs comme Chiesa qui ont porté la Juve, etc. On aurait pu penser qu'ils soient présents, titulaires, qu'ils aient leur place. Et ben il y a Berardi qui est lancé par Mancini. Mancini sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien pourquoi il le met là. Et il est très percutant. Franchement, c'est un joueur plaisant à voir. Et je pense qu'il fait beaucoup de différence dans les deux matchs qu'il a joué depuis le début de l'Euro.
Il a pu construire une belle osmose entre anciens et jeunes, les joueurs qui ont dépassé on va dire les 34-35 ans, et avec des jeunes joueurs. Aujourd'hui, le visage qui est montré par la squadra azzurra, je pense, augure d'un bel avenir pour cette équipe italienne.
Samir, on écoute. Alors ces Italiens.
Est-ce que la sélection italienne produit le plus beau jeu? Ça, j'en suis pas sûr. Par contre, l'avantage du fait qu'ils produisent peut-être pas le plus beau jeu, c'est que c'est pas forcément l'équipe qui produit le plus beau jeu qui va au bout. Donc ça, c'est peut-être une bonne nouvelle pour la sélection italienne. Par contre, moi, je suis très nostalgique, tu le sais, Bilal, du football d'avant. Bien sûr. Les superstars que l'équipe italienne avait avant.
Ouais, n'en parle pas trop parce que Claude,
Je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Yacine, que par rapport à Mancini. Donc c'est vrai, lui, ce qu'il a réussi à faire, c'est que c'est vrai, je le disais hier pendant l'émission, c'est que je trouve que la sélection italienne, elle est à l'image du championnat. C'est-à-dire pendant la période de la régression du championnat italien, la sélection a aussi régressé. Tu vois quoi aujourd'hui comme match référence de l'Italie pour nous dire qu'aujourd'hui elle est capable peut-être de rivaliser tactiquement, techniquement, contre une équipe comme la France? Je vais même peut-être te parler du Portugal, de l'Angleterre. C'est vrai qu'ils sont sur une série d'invincibilités.
Il faut attendre qu'ils les rencontrent.
Comme match référence. C'est pour ça que je dis peut-être que la France.
Moi, j'y crois pas au match référence dans le football. Hein. J'y crois au jour J. Hein.
Le match référence, ça va être une demi-finale, un match direct, une finale. Ça, c'est un match référence. C'est une grande sélection. Et moi, ce match-là, je l'attends et j'ai pas encore vu une sélection italienne qui a tapé une grande sélection et qui me laisse penser.
Et là, pas tant, là, sa mère.
Pour venir, la Turquie, c'est pas une grande sélection. La Suisse, c'est pas une grande sélection.
Vu ce qu'elle a fait.
Justement, pour le moment, on les attendait en opposition de l'Italie.
Ça, on va rentrer dans des statistiques. Des stats. Hein.
Moi, je pense que les adversaires de l'Italie ne les ont pas mis en difficulté. L'Italie n'a pas été mise en difficulté.
Peut-être que c'est l'Italie qui a mis en difficulté ses adversaires. Elle n'aura pas laissé la chance de pouvoir la mettre en difficulté.
Je pense que quand ils vont tomber contre ou la France ou l'Allemagne ou ce que tu veux, ça va
être répondre à ça. Ça rentre dans des statistiques. Mais au jour d'aujourd'hui, ils sont dans une dynamique. Oui, je pense qu'ils sont capables de battre n'importe quelle nation.
Moi, je rejoins Samir.
Mais ça m'étonnerait pas, Adil. Ça m'étonnerait pas, Adil.
En plus, je suis à moitié italien.
En plus, voilà.
C'est pas ça. C'est que ils sont. pour moi, ils ont un des parcours avec l'Espagne le plus simple, le plus ouvert en phase de groupe. Encore une fois, là, je parle encore de cote. Quand tu regardes, en gros, la position de tous les bookmakers, c'est...
Ça, c'est de la théorie. Après, dans la pratique, c'est autre chose.
En fait, jusqu'à maintenant...
La Turquie est capable de battre n'importe quelle nation. D'ailleurs, elle a battu la France.
Ouais, 28. Mais il n'y a pas eu de gros matchs.
Oui, mais...
Qu'est-ce que vous appelez les gros matchs?
Je suis d'accord, mais on ne peut pas quand même minimiser...
Oui,
la performance des Italiens. Ça fait 29 matchs qu'ils n'ont pas perdu.
Et là où je rejoins Samir, c'est que la série, elle est quand même extraordinaire. Les 3-0, il faut les mettre, même si ils sont absents.
Contre la Turquie ou contre la Suisse.
Mais on les attend peut-être dans les matchs à élimination directe face aux grosses nations.
Pour avoir la Suisse est 13e au classement mondial.
La Suisse,
c'est pas une petite nation. Et quand on voit la composante de l'équipe suisse, et je pense que si l'on mettait pour moi un autre coach avec les mêmes individualités, on aurait vu une autre équipe complètement.
Demain, match à élimination directe, tu auras un France-Italie. Très sincèrement, tu penses qu'il y a un avantage Italie pour toi? Donc l'Italie est supérieure à la France à la minute.
Moi, dans ma logique, comment je regarde le football, moi j'y crois au jour J. Voilà, la France peut présenter les meilleurs. Aujourd'hui, c'est la France qui présente les meilleurs atouts. Quand on voit la composante, soit les 11 titulaires ou tous les remplaçants, la France, franchement, il n'y a aucune équipe qui peut rivaliser avec elle. Et quand on voit le match qu'ils ont eu, on va revenir un petit peu, parce qu'on en parle, contre l'Allemagne, on va comprendre que le football, c'est autre chose. Autre chose, complètement.
Là, tu joues l'Allemagne, tu joues pas le Pays de Galles, la Suisse.
Ouais, mais le Pays de Galles, à ce niveau-là, ils viennent, ils jouent les matchs de leur vie. Le Pays de Galles, ils viennent à l'Euro pour faire les matchs de leur vie. Donc aujourd'hui, toutes les nations sont capables de réaliser. Tout à l'heure, on parlait d'exploits. Donc pour moi, les Italiens méritent un minimum ou un maximum de considération parce que rester sur 29 matchs sans perdre ou 10 matchs sans encaisser et marquer en phase finale de l'Euro. Pour le moment, les deux matchs, ils ont marqué 6 buts. Je pense que quand on voit l'historique de l'Euro, ça ne s'est pas arrivé souvent.
On verra bien en tout cas, Yacine. On verra bien. En tout cas, on note que tu as dit que.
Je l'ai toujours dit que les Italiens, je l'ai dit il y a déjà 6 mois quand je vous ai dit que cette équipe italienne va quand même titiller tout le monde.
On verra.
C'est comme l'Algérie qui va aller en finale de Coupe du Monde. Okay, c'est pareil.
On verra. Le rendez-vous est prêt pour 2022. Un grand merci à toute l'équipe, notamment à Team Stop, avec Ludovic Adel qui a été avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Vous restez encore avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, jusqu'à 21h. On est ensemble. Un grand merci à Abdel, à Yacine, au coach Tolé, ainsi qu'à toi, Samir. À de suite.
Retrouvez Time Foot, spécial Euro 2021, du lundi au vendredi de 19h à 21h sur Beurre FM. 19h, 21h, Time Foot, spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Voilà, on est de retour sur l'antenne de Beurre FM pour la deuxième partie de cette émission Time Foot jusqu'au 11 juillet, on le rappelle, 19h, 21h, rien que pour vous, les auditrices, les auditeurs de Beurre FM. Vous restez bien à l'écoute de Beurre FM. Justement, on va entamer avec cette fameuse compo de ce match de 21h, Pays-Bas-Autriche, sans oublier aussi la sortie de Sergio Ramos qui quitte le Real Madrid, cette Maison Blanche, les Meringues. Sans oublier aussi un petit débrief sur le match de cet après-midi qui opposait l'Ukraine à la Macédoine, mais aussi Kevin De Bruyne qui libère le peuple belge, ces diables rouges, face aux Danois qui l'ont fait un petit peu mal. On aura les pronostics de toute l'équipe et ce soir, pour m'accompagner, on a notre consultante Diane. Comment ça va, Diane?
Ça va très bien, bonsoir à tous.
Valentin est avec nous ce soir. Comment ça va, Valentin?
En forme.
Ouais, en forme.
On a de quoi dire là. On a eu des beaux matchs aujourd'hui et c'est pas fini pour ce soir en tout cas.
Ouais, et c'est pas fini aussi encore avec le coup de gueule de LeBron James. C'est un petit mot si tu veux. Vas-y, si tu veux te faire plaisir. Son coup de gueule aussi.
En fin d'émission,
on l'aura. Allez, on le verra avec toi. On se la réserve justement. Eh ben, c'est promis. Ça, c'est dit par Valentin, le groupe C, justement, en compagnie aussi du coach Tolé. Comment ça va, le coach?
Rebonsoir. C'est impeccable.
On est toujours
bien,
là.
Tranquille, toujours là.
Il nous a
place.
Fait un peu voyager. On voulait donner des petits noms comme Costa Conta ou encore.
Maldini, Baresi.
Maldini, Baresi, entre autres. Pepe Signori.
Giuseppe Signori, ouais. Hein, grand attaquant de la Lazio. Passé par Bologne également.
Il était pas mal.
Il était pas mal. Ouais. Ça, c'était.
Il avait fait du mal. C'est pas des spaghettis, ça.
Yacine en parlait, c'est vrai que dans les années 90, ouais, t'avais quand même une génération d'attaquants italiens assez impressionnants. C'était très, très fort. C'était très fort.
La plus grande génération, c'est les années 80.
C'est Yacine aussi.
90 attaquants.
Ouais.
Ah bah oui.
80.
90 pour moi. Les attaquants. Là, on parle des attaquants. Mais si on parle du potentiel attaquant.
Non, c'est Paolo Rossi et Bettega.
Non, mais si on parle des attaquants, où t'avais les Ravanelli, t'avais Gianluca Vialli.
Mais bien sûr, c'est pour toi.
C'est pour tous les Italiens.
Ah, t'avais Gigi Lentini.
Paolo Rossi a fait gagner la Coupe du Monde en Italie.
En 82. Voilà. Ouais. Oui.
Et aussi, pour peut-être tous les amoureux de la Juventus, peut-être
alors, la vieille star,
le véritable attaquant qui a marqué l'histoire du football italien, c'est Bettega. Peut-être beaucoup de jeunes ne connaissent pas, mais ouais, ils vont mettre leur, ils ont tous des smartphones, ils vont poser la question, c'est qui Bettega, et ils auront la réponse.
Ah ben nous on aura la réponse peut-être avec la composition de ce match de ce soir qui opposera, on le rappelle, le Pays-Bas face à l'Autriche. Avec toi, Abdel nous fait le plaisir et le privilège de rester jusqu'à 21h.
Ouais, j'ai changé de couloir là.
Ouais, le couloir. J'étais, tu passais du groupe B ou C?
Là je passe à gauche pour faire plus de passes à Valentin et à Djien. Donc j'ai changé de poste, je suis bien content.
Il va orienter le jeu. Tu sais, les meneurs de jeu.
Alvaro Recoba, de temps en temps.
On va voir.
Alvaro Recoba.
Ah, il était pas mal aussi. Chino. Avec les interistes.
Ouais. C'est ça.
Il était pas mal.
C'était plutôt fantasque, mais c'était un beau joueur.
Ouais.
Un joueur irrégulier, quoi.
C'était pas mal, moi je dis. Premier sujet de cette émission.
Time Sport.
Allez, peut-être avec toi, Valentin, ou sinon avec Abdel. La composition, le Pays-Bas avec l'Autriche. Messieurs, on l'a donné, on l'a balancé.
La compo,
de ce match de 21h, on le rappelle.
Du côté des Pays-Bas, ce sera Stekelenburg, De Vrij, De Ligt, Blind, Dumfries, De Roon, Wijnaldum, De Jong, Van Aanholt. Donc, Weghorst devant et Depay. Donc, un 3-5-2 annoncé par l'équipe des Pays-Bas. Et du côté de l'Autriche.
Alors, on va aller chez Valentin, justement.
Je suis là pour ça.
Allez, une passe D.
On a un 4-4-2. Avec Bachmann au poste de gardien de but.
Ouais.
Inter, Reger, Dragovic en défense centrale. Ulmer, latéral gauche. Leiner, latéral droit. Milieu axial, Leimer, Schlager. Milieu excentré côté droit, Baumgartner. Alaba côté gauche, donc un peu plus haut par rapport à d'habitude. Sabitzer en attaque avec Gregoric. C'est des noms assez compliqués à prononcer,
ouais,
mais j'y suis arrivé en tout cas.
On te félicite bien, c'est ça, vraiment.
Et là, il y a une remarque à faire.
Vas-y, Valentin.
Sabitzer qui est un peu plus haut sur le terrain, c'est un peu comme Elmas avec la Macédoine du Nord, qui a mis le terrain et qui a joué beaucoup plus haut. Donc dans ce groupe-ci, à chaque fois, on retrouve un peu ce même système de mettre son créateur un peu plus haut sur le terrain. Donc là, c'était intéressant. Et puis les Pays-Bas, normalement, qui évoluent en 4-2-3-1, là, ils sont en 5-3-2. Donc.
Alors le coach étonné.
Pour compléter Valentin, c'est malheureusement dû à la faiblesse aussi technique de ces nations où on a ces joueurs-là qui jouent plutôt reculés dans leur club respectif, mais en sélection, on a besoin d'expérience.
L'Ukraine, ils l'ont fait tout à l'heure, mais je sais plus avec quel joueur.
Le latéral gauche qui joue à
Zinchenko,
Malinovski joue à l'Atalanta.
Qui est passé de milieu de terrain à
c'est souvent ça. C'est souvent cela, ouais. C'est important de le souligner quand même.
Ouais, c'est intéressant ces petits changements tactiques comme ça qui peuvent peut-être faire la différence.
Ouais, on verra justement les Pays-Bas, les Bataves qui ont arraché justement cette victoire pour leur premier match face à l'Ukraine. On le rappelle, 3-2, Abdel, et aussi vous, messieurs, dames.
Ouais, bah c'était pour revenir sur le match précédent. On les a vus un peu en gérer le match, mais ça a été, ils sont mis en difficulté, on va dire un peu tout seul,
ouais,
face à une belle équipe de l'Ukraine. Maintenant, les Pays-Bas aussi ont beaucoup d'absents. Ils ont dû refaire leur système, remettre en place de certains joueurs. Donc, forcément, les réglages se font tard au moment de jouer cette compétition. C'est pas une équipe forcément impressionnante, mais je pense qu'elle sortira de son groupe. Et ce soir, face à l'Autriche, ce sera un match assez ouvert, quoi qu'on en dise.
Un peu poussif, peut-être, le Pays-Bas.
C'est comme Abdel a dit, c'est que c'est une équipe qui ressemble pas à celle des dernières années, c'est-à-dire avec des plus grands noms. Déjà, il y a Van Dijk qui est pas là.
Mais De Ligt qui a pas joué, Van de Beek aussi.
Dans ce groupe-là, elle est obligée de finir premier. Je pense que c'est le minima. Et contre l'Ukraine, elle s'est fait peur. Parce qu'on a assisté, je pense, après c'est subjectif, mais à un des matchs les plus les plus spectaculaires déjà en but et en et il y avait beaucoup d'espace aussi derrière derrière chaque défense. Et dans ce groupe, mine de rien, on voit des sélections qui sont pas forcément très attirantes, mais qui ont un jeu attractif. La Macédoine du Nord qui prend énormément de risques, et ça va être le cas contre les Pays-Bas. Hein. Même si c'est les Pays-Bas, ils vont quand même prendre des risques. Et ce soir, Pays-Bas-Autriche, c'est des équipes qui jouent beaucoup dans l'axe, qui sont à la recherche des espaces, et leurs latéraux, toujours très très haut sur le terrain, qui n'hésitent pas à compléter le milieu de terrain pour faire une supériorité numérique. Donc c'est hyper intéressant ce soir, on va avoir un très très beau match. Je pense beaucoup de buts en tout cas.
Oui, on verra bien, Jian, peut-être un mot à dire. Alors, sur ce match de 21h.
Ce sont deux nations qui ont l'habitude un petit peu de se rencontrer parce qu'elles ont déjà joué 18 fois l'une contre l'autre. Sur ces 18 rencontres, l'Autriche a gagné 6 fois, elle a concédé 4 matchs nuls et elle a perdu 8 fois. Par contre, elle a marqué que 24 buts sur elle en a encaissé 24 en tout cas. Donc ça reste quand même assez équilibré parce qu'ils se rencontrent assez souvent. Et en termes de victoires et de nuls, on voit que ces deux nations ont à peu près le même niveau et le même potentiel. Donc ce soir, ça va être un match très serré. Et c'est vrai que dans ce groupe C, depuis le début de l'Euro, c'est quand même le groupe où il y a le plus de buts qui sont marqués. Donc c'est un groupe, même si les équipes, moi c'est pas le groupe le plus sexy entre guillemets en termes d'affrontement, mais c'est quand même un groupe qui est assez équilibré. Et ça va faire un beau match. On a un grand absent ce soir aussi au niveau de l'Autriche avec un joueur qui a été suspendu à cause d'une célébration tendancieuse face à la Macédoine.
Difficile hein, comme sanction.
Difficile, ouais. Bon après c'est une décision de l'UEFA, donc c'est Marco Arnautovic, c'est ça?
Tout à fait.
Arnautovic, ouais.
Tout à fait.
Qui maîtrise les mots,
qui a marqué d'ailleurs.
Donc ça va être assez intéressant.
Ouais, on en rappelle, Diane. Pays-Bas, Autriche, Ukraine, Macédoine du Nord.
Comme le dit Jen, c'est vrai que avant le début de la compétition, c'était pas forcément le groupe qui faisait soulever les foules. Et on se rend compte que c'est certainement jusqu'à présent les matchs les plus intéressants en termes de suspense, en termes de jeu, comme l'a dit. Sommes de Macédoine. De l'ex-Yougoslavie, toujours cette culture. Pour le moment, on se régale dans ce groupe dont on ne parlait pas, hormis les Pays-Bas, mais on se rend compte que voilà, on découvre des joueurs intéressants et c'est bien pour la suite.
Yacine. Alors on n'a pas entendu Yacine. Ouais, ce groupe c'est Yacine.
Après, il y a des buts certes, mais sur la qualité de jeu, c'est très limite. La Hollande. C'est juste le nom qui reste. Hein. Ça fait des années qu'ils sont en train de patauger dans leur football. Quand on voit la qualité de Samir tout à l'heure, avant on avait souligné surtout la qualité du championnat. Ce n'est plus l'Ajax d'antan, ce n'est plus le PSV Eindhoven, l'AZ Alkmaar. On retrouve plus cette passion dans le championnat hollandais, même si c'est certes ils forment des joueurs et des joueurs qui sortent, mais la qualité de l'équipe nationale, de leur sélection. Franchement, laisse à désirer. Après, ils ont le même niveau que l'Autriche, que la Macédoine. Donc la Hollande est rentrée.
Yacine, tu es sévère.
Par rapport à ce que.
Comment je suis sévère? Ils ont gagné quoi, les Hollandais, depuis leur dernière finale qu'ils ont perdue? C'est devenu une équipe quelconque, tout simplement.
C'est vrai que les Pays-Bas, ils ont souvent été qualifiés, mais ils ont rarement gagné.
Et ils ont souvent joué les premiers rôles dans tous les grands tournois sur la Coupe du Monde ou l'Euro. Mais là, ça fait, on va dire, 6-7 ans, c'est devenu une nation quelconque. Tout le monde peut la battre, d'ailleurs, quand on voit souvent des équipes moyennes.
C'est plus les Pays-Bas des années 70, où on avait un jeu qui était assez spectaculaire.
Même dans les années 90.
Je pense même que les Pays-Bas, quand on regarde le potentiel joueur palmarès, il y a un fossé énorme. Enfin, si tu remontes même sur 40-50 ans,
aujourd'hui, à part Van Dijk, qui émerge du lot, les autres c'est du joueur
tout à fait ordinaire. Faut oublier que leur dernier titre remonte à l'Euro 88 avec Gullit, Rijkaard, Van Basten contre l'URSS en Allemagne. Et c'est vrai qu'on reste souvent sur notre fin quand on voit le potentiel.
Quand on parle Hollande, ça nous fait rêver, ça nous rappelle Cruyff,
Schreivers,
Johnny Rep, ce n'est plus le cas.
La Hollande, c'est plus vraiment une ADN de jeu quand on les voit arriver en compétition.
On voit Abdel.
On se dit tout le temps la même chose. Il y a des équipes comme ça, on se dit, bon,
On sait qu'elles vont pas aller au bout, mais au moins au niveau du jeu produit, ça va être intéressant. Je rejoins Yacine dans le sens où, en fait, finalement, on sait que les Pays-Bas vont sortir peut-être à l'expérience, pas forcément par la qualité de jeu, mais on apprécie de voir des matchs comme l'Ukraine-Macédoine de cet après-midi ou même l'Autriche-Macédoine, parce que c'est des équipes qu'on n'attend pas forcément à chaque fois. Et il y a des joueurs qui s'expriment peut-être moins en club, et on le dit souvent, qui s'expriment beaucoup mieux en sélection. Tout à l'heure, Malinovski le disait, Yarmolenko, Goran Pandev qui est là depuis des années, le joueur de Naples que tu citais aussi, Valentin. Donc on va peut-être plus être attentif aux petites nations entre guillemets du groupe, et je dis bien petites nations parce que c'est par rapport
le fait qu'ils soient présents à la compétition, ce n'est plus une petite nation.
Oui, il y a des nations en progrès justement, et je pense que on est trop des fois dans l'idéalisation de et dans le mythe certaines
on vit dans le mythe de la Hollande.
Dans certaines sélections qui par le passé ont plus ou moins brillé, et on veut les voir briller encore aujourd'hui. Abdel, c'est de la nostalgie. Abdel, et on a du mal à s'en défaire.
Quand il y avait la grande équipe des Pays-Bas, il faut savoir qu'il y avait la grande équipe des Pays-Bas, à partir des années 70, il y avait toujours au moins 50-60% des joueurs de l'Ajax. Il y avait au moins 30 à 40% des joueurs du PSV Eindhoven. Aujourd'hui, c'est des joueurs qu'on arrive à récupérer.
C'est peut-être aussi de parler de l'équipe d'aujourd'hui plutôt que de parler de celle de 1970.
Aussi.
Ouais, mais on parle du football ici. On fait une comparaison. Aujourd'hui, l'équipe d'aujourd'hui, elle ne voit absolument rien du tout.
T'as vibré sur le match. Est-ce que tu te dis que les Pays-Bas, avec le niveau de jeu affiché, ce qu'ils ont montré, est-ce qu'ils peuvent aller loin? Est-ce que c'est très limite par rapport à ce que t'espérais?
Par rapport à ce qu'on attend, c'est forcément décevant, parce que ils sont quand même pratiquement accrochés. Leur victoire, elle n'était pas donnée dès le début, et ils ont galéré. Il y a eu beaucoup de trous dans la défense. Donc non, c'est pas satisfaisant. Ils reviennent de ce match-là, ils se disent il y a énormément de choses à améliorer. Mais comme j'ai dit, il y a les minima à assurer. Ils l'ont fait et ils le feront sûrement ce soir.
Oui, mais Valentin, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que on peut se permettre de se projeter parce qu'ils sont censés être favoris du groupe. Mais si c'est juste pour passer un tour et après en huitième et en quart ne pas faire la différence ou sortir, eh ben tu te dis que c'est déjà inquiétant pour un premier match par rapport à la suite et là où ils veulent arriver. C'est plus dans ce sens-là où on se projette avec cette équipe dont on attend plus ou moins pas mal avec leur individualité.
Que c'est quand même un début de reconstruction, parce que Koeman qui est parti il y a un an, si je me trompe pas, et
De Boer
qui est arrivé il y a un an. Pour moi, un sélectionneur, un an, c'est pas grand chose, parce qu'il y a peu de matchs à se mettre
là-dedans. Même Koeman, il n'a jamais pu reconstruire quoi que ce soit.
Après, ça dépend du sélectionneur.
Ben oui, ça fait des années que tous les sélectionneurs qui se sont succédés autour de cette sélection, personne n'a pu reconstruire ou personne n'a pu redonner à cette équipe des Pays-Bas son ADN, qui est le football total, voilà, qui est prôné par
le football total s'est dépassé. Il faut aussi,
Dépassé le football total.
Ouais.
Moi, par rapport à
pour pouvoir pratiquer le football total, il faut avoir des éléments pour.
En fait, c'est ça que je voulais dire. C'est dépassé dans le sens où ils ont un système de jeu qui a marché dans les années 70 avec ce football total où on permutait les postes en permanence, mais aujourd'hui ils peuvent pas le faire avec les joueurs qu'ils ont. Donc il faut reconstruire autre chose.
Donc il n'y a plus de qualité.
C'est là que je rejoins Valentin, c'est qu'il y a quelque chose à construire et il faut le construire autrement. Et pour ça, il faut sortir un petit peu de l'idéologie historique de on avait ça avant et aller vers quelque chose qui ressemble plus à ce que les joueurs des Pays-Bas peuvent faire aujourd'hui.
Non, mais le problème.
Alors,
aujourd'hui,
on termine
avant la pause. Il s'expliquait, t'avais une sélection des Orange avec une majeure partie de joueurs de l'Ajax, du PSV, du Feyenoord. Ce sont des grands centres de formation sur le marché européen. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aller plus loin, c'est que ces clubs-là qui font partie de l'ADN même du football hollandais, n'ont plus le temps. C'est-à-dire que les meilleurs joueurs des 16-17 ans partent, hormis l'Ajax qu'on a vu là il y a deux ans. Hormis cette équipe-là, c'est le désert total. Exactement. Et c'est vrai que t'as plus moyen maintenant de construire sur la durée. C'est un peu le souci de toutes les grandes écoles que l'on a. Quand tu retrouves en Croatie, dans ces grands pays du football où il y a toujours une formation extrêmement forte, ça a volé en éclats. Il n'y a plus grand-chose et des fois.
Alors on va faire une courte pause. Salut les auditeurs de Bord FM et on reviendra de suite avec Sergio Ramos qui quitte le Real Madrid.
Time Foot spécial Euro 2021. Reviens dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM. Allez, on est ensemble jusqu'à 21h. Toujours en compagnie de Yanis, notre réalisateur. Un petit clin d'œil à Jouba avec Nech, sans oublier Farid. et aussi Fredo. Voilà, c'est Fred.
C'est qui Farid?
Ah, Farid Roa, ça, tu ah, connais
le,
pas
le
Farid.
Grand Farid Roa, ah, ça, là, d'accord. Là,
là. L'un des pères fondateurs.
Ah, ouais. C'est pas bien, Abdel. Hein,
c'est la
bien,
vérité.
C'est pas bien.
Non, mais en ce moment, mais là, tu peux nous expliquer tout à l'heure où t'es parti?
Ah ben,
et c'est Eclipse nous a fait une Eriksen. C'est-à-dire, il voulait démontrer que. Voilà, exactement. Et c'est grâce à. Au sauvetage de.
Un droit de réserve.
Un passement de jambes. Allez, on est en compagnie de JN, notre consultante, avec Valentin, Abdelou, le coach Tolé, et toi, Yacine. Allez, on prend la direction de Madrid.
Time Sport.
Eh oui, ça fait tant parler, Abdel, hein, le coach Tolé, Sergio Ramos, justement, qui quitte le fameux Real Madrid. Eh oui, Valentin, peut-être pour le Paris Saint-Germain, on l'espère. On ne saura plus mettre les joueurs, parce qu'il y en aura trop, là, avec la venue de toutes ces nouvelles stars dans la capitale. Ouais, je ne sais pas.
Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée que Ramos vienne au PSG.
Ah ben, en tout cas, les supporters aimeraient.
Non, parce que c'est-à-dire que tu
moi, j'aimerais bien.
Non, mais tu vires Thiago Silva pour aller prendre Ramos qui a le même âge.
Eh ben, ouais, mais je sais pas. Moi, j'aime bien l'espagnol.
T'as qui PMB Marquinhos,
bon, le brésilien aussi.
Un central qui est plutôt solide. Je sais pas.
Moi, je le prends pas.
Casser la tirelire pour quelques années. Ramos.
C'est pareil pour le forcer aussi, Donnarumma.
C'est toujours un grand défenseur, mais c'est. Il a son âge et ça. Je pense que. Sur un miser sur un joueur pour 2-3 ans, même
ouais, mais
pas,
tu,
même pas.
Tu, wow. tu vas payer le salaire, c'est toujours moins coûteux que quand tu payes un ouais, entre guillemets une transaction.
Ouais. Vu Thiago Silva, c'est logique de
En fait, Thiago Silva ou pas, déjà c'est pas les mêmes joueurs, autant ils ont des qualités ça de défensivement, il y a pas de problème, mais au niveau du leadership, c'est pas du tout pareil, et je pense que au PSG, il y a besoin peut-être de concurrence entre guillemets à ce poste-là, là où ils ont été souvent deux cette année. Il y a Kimpembe qui a fait des matchs où il a été souvent, on va dire, en difficulté parce que il a été en difficulté parce que il a pas forcément eu de joueurs qui pouvaient le remplacer, peut-être par manque de confiance des remplaçants. Donc pour moi, c'est pas une mauvaise idée. Après, le PSG, on en parle, mais il pourrait très bien retourner à Séville, le club où il a été formé, donc faut faire attention.
C'est quand même cruel, le monde du football, le sport, c'est-à-dire qu'il est quand même resté 16 ans après être parti du FC Séville. Il a marqué de son empreinte, c'est un joueur légendaire du Real Madrid, et est assez fin, voilà, c'est fin d'aventure, toujours assez particulière. Alors c'est vrai que des fois, pour même un sportif de haut niveau, tu te dis, est-ce qu'il y a un moment, il faudrait peut-être pas partir sur un trophée, sur une victoire, plutôt que de faire peut-être l'année de trop sportivement, ça a été délicat aussi pour lui, pas mal de blessures.
Et
là, d'après ce que l'on entend, bon, voilà, je signe pas, on propose un contrat de 2 ans, puis de 1 an, puis finalement il accepte. On lui dit qu'il n'y a plus de contrat.
En plus, il a revenu vers L'Oréal.
L'humain est terrible quand même. Ouais. Enfin, il est quand même sans pitié. Hein.
L'humain est
terrible, mais c'est ça une carrière de footballeur aussi. Hein. Alors certes, il est arrivé, il avait 19 ans au Real, mais quand on est footballeur, on s'attend à ce que sa carrière se termine
avec respect.
Rapidement. Elle se termine avec respect. La manière dont il parle, quand il part en disant ce n'est pas un au revoir, je reviendrai, les hommages que lui a rendu Zidane également. Moi, je trouve pas que ce soit. Alors, quand
la
on
part
est...
des dirigeants, surtout, tu vois, dont on.
Ouais, de la part des dirigeants, mais les dirigeants sont des dirigeants. Un joueur de foot, c'est un numéro. En fait, si on met de l'humain derrière quand on est dans une entreprise, parce que le Real Madrid, c'est une entreprise comme Danone. Quand on met trop d'humains derrière, ça devient un petit peu compliqué. Après, je peux comprendre que les fans soient un petit peu choqués et blessés, mais le monde du sport professionnel, c'est aussi celui-là. Hein. C'est une réalité. Je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que c'est une réalité.
Maintenant, on parle de Sergio Ramos comme si c'est le Real de Madrid, je ne sais pas, lui a fait offense. Du tout. Le Real de Madrid, il est plus grand que tous les joueurs qui sont passés. Di Stefano, qui a marqué l'histoire du football madrilène, il est sorti, il est parti. Sergio Ramos, ça fait presque 8 mois qu'il a une prolongation de contrat. Ouais. Il a voulu faire chanter le
Ils le font tous en ce moment, peut-être.
Bah, c'est pour ça que le Real de Madrid lui a montré que l'institution est plus grande que tout le monde.
Ouais, comme à une époque avec
Messi. C'est un exemple. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pourra apporter dans les 2 voire 3 prochaines saisons pour le Real de Madrid? Le Real de Madrid a besoin de se renouveler. Elle a besoin de son leadership.
Elle a
bien. Elle aurait pu gagner
tous les titres cette saison. Je pense que ils ont eu à un moment donné, ils ont fait un crochet. Sans, pratiquement, il était absent tout au long de la saison. Donc, ce n'est plus un joueur indispensable. Nacho commence vraiment à s'affirmer. Militao, il a fait une superbe saison. Après, il y a d'autres joueurs.
Tu ne veux pas comparer 16 ans au Real Madrid avec.
Mais 16 ans, à un moment donné, il n'y a pas que le jeu. Il a donné, le Real Madrid lui a donné.
Je suis d'accord, mais ça reste quand même une grosse perte. Il va falloir quand même le remplacer, même s'il est plus haut niveau.
Mais si le Real Madrid n'est pas capable,
parce que c'est un mec, parce que c'est un vrai guide, parce que c'est un mec qui est capable d'emmener.
Le Real Madrid a bien remplacé Zidane. Elle a remplacé Butragueño, elle a remplacé Sanchez, elle a remplacé Michel. Elle a remplacé. Pourquoi ne pas remplacer?
Je suis pas sûr que Nacho Militao soit capable d'emmener leur équipe à la guerre.
Comme un autre, tout simplement. Voilà. On va lui rendre hommage. On va lui rendre hommage. Il aura marqué de son empreinte le Real de Madrid, mais il faut passer à une autre étape. C'est ça le football.
Yacine, t'as cité des joueurs. Bon. Butragueño, etc., dans l'histoire, qui ont fait pas mal de choses. Zidane qui partait à la retraite, mais par rapport au Caramos, j'ai l'impression que le Real, avec ce type de joueurs, ils sont coutumés du fait, dans le sens où il y a eu Raoul par le passé, qui a eu des conflits. Il y a eu Casillas, on le citait tout à l'heure, pareil, qui est parti.
Mais c'est le Real, c'est pour montrer que l'institution est plus grande que tous ces joueurs-là.
Il n'y a pas de souci, on connaît la puissance.
C'est ça la grandeur du Real de Madrid.
On connaît la puissance du Real face à ses stars, il gagne toujours. Mais en fait, c'est surprenant, mais en fait, on ne doit pas être choqué parce qu'il y a déjà un passif. Ce n'est pas la première fois qu'ils font ça avec un joueur. Après, c'est un joueur de groupe, c'est un joueur qui aurait pu finir là-bas, et entre guillemets, même si c'est déjà une légende. Eh ben, ça aurait pu être encore plus historique. C'est plus dans cette manière-là où on est un peu.
Jean l'a dit, avant tout, l'institution du Real Madrid est une entreprise. L'entreprise, elle cherche ses propres intérêts.
Exactement.
Voilà, au-delà de tout ça, s'ils n'ont pas un intérêt de le faire prolonger, comme a dit tout à l'heure Valentin concernant le PSG, on l'envoie au PSG.
Tu gagnes un titre, tu pars.
Qu'est-ce qu'ils vont faire le PSG un joueur comme Ramos?
Mais il faut aller chercher qui sur le marché.
Et tu vas ramener des problèmes avec Mbappé, Neymar.
Là, on va parler de l'équipe de France. On est en train de parler uniquement du départ de
Sergio Ramos.
Mais à un moment donné, il y a le club qui voit son propre intérêt, et il y a l'agent du joueur aussi qui est capable à un moment donné de travailler pour l'intérêt du joueur aussi.
Il a tout fait à l'envers. C'est son frère. Voilà.
Il faut voir comment il est entouré et comment ça fonctionne autour de lui et les conseils qu'on a pu lui donner. Mais une entreprise, même si elle est dans le sport, un club de foot est une entreprise. Il y a des CDD, il y a des CDI, il y a des clauses libératoires, il y a tout ça. Il faut le voir vraiment d'un point de vue purement professionnel.
Dans le football, il n'y a que des CDI.
Il n'y a
pas de CDI, ça n'existe pas.
On enchaîne avec les matchs de cet après-midi. Allez, c'est parti.
Time Sport. Le duel.
Eh oui, dominateur en première période, les Ukrainiens, le coach Tolé, ont souffert face à la suite face à une Macédoine du Nord assez revigorée, si je peux me permettre, Valentin. Eh oui, on rappelle le score, 2-1.
Une Ukraine qui est assez flexible tactiquement, qui a une tactique pour les gros et une tactique pour les faibles, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et toujours. Toujours très très offensive, qui se découvre énormément et qui peut aussi aligner une ligne de 5 offensivement. Donc ils prennent énormément de risques, et donc quand on prend des risques offensivement, on prend aussi des risques défensivement. Derrière, on laisse des espaces.
Ouais, Valentin.
La Macédoine du Nord, elle a un peu la même philosophie, c'est que c'est beaucoup d'agressivité vers l'avant, et on laisse des espaces derrière. Donc c'était un peu des équipes comme ça qui se découvraient. On n'a pas eu un match avec beaucoup de buts, mais en tout cas c'était hyper intéressant. Et puis on aurait pu avoir un deuxième but de Pandev qui a été signalé hors jeu, mais dans l'ensemble c'était un match qui était
voilà aussi.
Mais ils sont retrouvés un peu dans leur position eux face aux Pays-Bas, là où eux ils étaient ils ont dû faire le jeu pendant 30 minutes tout à l'heure face à la Macédoine. C'était vraiment une attaque défense. J'ai pas reconnu la Macédoine que j'avais vu contre l'Autriche, ça a été un peu dommage. Ils ont mis 2 buts, ils auraient pu en rentrer avec 3-4 buts au moins à la pause. Ils ont montré de belles choses, il y a un très beau duo devant, 3-4 joueurs en plus qu'on découvre, et voilà. Maintenant, ils ont eu un temps faible, c'est pour ça aussi que la Macédoine, ça leur a permis de marquer. Mais des équipes comme la Macédoine, c'est toujours intéressant de voir que leur football a évolué. On va pas attendre beaucoup de choses d'eux, mais on attend juste vraiment une opposition, et c'est chose qui a été faite dans ce match-là cet après-midi.
C'est compliqué d'attendre une évolution de la Macédoine. C'est quand même une nation qui, au niveau de l'UEFA, est très jeune, parce qu'elle a commencé je crois, en 93, l'UEFA. C'est sa première vraie qualif cette année.
Déjà que la Macédoine est division 2.
La Macédoine du Nord, excusez-moi.
Déjà, ouais. Voilà. Et ouais, tu vois, déjà la Macédoine,
c'est déjà une évolution indienne.
Oui, en fait, c'est compliqué d'avoir du recul sur cette équipe et de savoir en réalité quel est son potentiel. C'est sa première qualif à l'Euro. Le championnat de la Macédoine, c'est quoi? C'est 12 équipes. C'est petit. Il y a pas
Macédoine du Nord, hein.
Macédoine du Nord, toujours. Après, ce qui est intéressant au niveau de cette équipe-là, c'est la multi-ethnicité qu'on peut avoir. Et du coup, on a des joueurs qui ont vraiment un gros potentiel physique. Mais moi, je trouve que c'est compliqué d'avoir du recul sur cette équipe parce qu'on n'a pas l'habitude de la voir jouer. C'est vraiment la première grosse sortie qu'on voit cette année.
C'est une victoire.
C'est une victoire
pour la Macédoine du Nord, déjà, de participer à l'Euro.
Non,
bah écoute, quand t'es une petite nation, qui depuis l'éclatement de la Yougoslavie a dû changer de nom à 3-4 reprises politiquement parlant, ça reste une victoire pour la Macédoine du Nord, qu'on le veuille ou non.
Ça fait partie de l'évolution. De l'évolution. Il faut savoir que pour construire une grande équipe, il faut de grands moyens financiers. Aujourd'hui, ces fédérations, que ce soit l'Ukraine, que ce soit la Macédoine du Nord, ou même l'Autriche, c'est des fédérations qui ne sont pas assez puissantes pour faire face à de grandes nations comme la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Donc après, sur le principe du potentiel, le potentiel il existe, mais il faut savoir l'exploiter. Aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de pouvoir peut-être aller de l'avant, mais depuis qu'ils ont pris leur indépendance ou l'éclatement de la Yougoslavie, ils ont énormément progressé. D'ailleurs, on retrouve la Macédoine du Nord, on ne retrouve pas la Serbie, par exemple, qui a une très grande équipe, on ne retrouve pas la Bosnie.
De toute façon,
c'est des choix politiques, mais on retrouve aussi...
La politique a tué cette nation. Oui. C'est-à-dire que j'appellerais la Yougoslavie. A assassiné.
Le foot. Quand tu vois qu'aujourd'hui, à l'UEFA, il y a plus de pays que dans l'Union européenne, tu te rends compte quand même.
Rapidement, il a raison. C'est que malheureusement, la Yougoslavie, c'est peut-être pour moi le vivier le plus impressionnant.
D'Europe,
technique,
le plus grand vivier d'Europe
depuis l'existence des compétitions, c'est juste impressionnant. Et c'est vrai que la politique a complètement flingué cette région du football.
Regarde, un pays aussi stable politiquement et économiquement comme l'Autriche n'a jamais pu construire une grande nation de football.
C'est vrai.
Parce qu'il n'y a pas de... malheureusement, peut-être qu'ils n'ont pas compris, même la Suisse. La Suisse, par exemple, quand on voit, tout à l'heure, je ne l'avais pas souligné, la composante de cette équipe suisse, on retrouve un seul joueur pratiquement d'origine africaine, sinon ils construisent toute leur immigration sur les Turcs, sur les Arméniens, sur les Allemands
qui sont moins bons.
L'Europe de l'Est, alors qu'ils ont un vivier d'Africains, en général Africains du Nord ou Afrique subsaharienne, sur laquelle ils peuvent construire une grande nation de football, ils le veulent pas.
Et ben la France et la Belgique,
leur politique, ils veulent pas.
Ils sont bien contents, en tout cas.
La Belgique. Oui. Comment on arrive à la Belgique. Grâce à Kevin De Bruyne, la Belgique qui s'impose face aux Danois.
C'était très dur et je pense qu'ils en sortent vraiment très bien les Belges parce que on en parlait avec Abdel tout à l'heure sur la première période.
Ça a fait un euro au moins autour de cette table.
Si la Belgique mène 2-0, franchement, il y a clairement pas photo. C'est le Danemark, pardon. Mène 2-0, il y a clairement pas photo. Et c'est même triste de les voir dans cette position parce que on sait ce qui s'est passé lors du premier match face à la Finlande avec Eriksen.
Il y avait une minute d'applaudissement
à la dixième minute. Donc là, il y avait cette envie vraiment de faire la différence, de faire un gros match. Ils ont fait un gros match pendant une heure de jeu, puis après, sans être exceptionnel, parce qu'ils ont été quand même très moyens, De Bruyne a changé le cours du match.
C'est la différence entre une grande nation
avec
de football
très, très
et une nation qui a toujours été
émergente. Exactement. Voilà.
Mais le Danemark méritait...
Alors Valentin. Cette différence, ça s'appelle l'expérience.
Le Danemark méritait largement son match nul. Ça c'est clair, on a vu même sur les dernières minutes la tête de...
Martin Braithwaite sur la barre.
Sur l'équerre même.
Donc...
C'était très très dangereux devant le but et la Belgique assez fébrile même dans les relances. Je trouve qu'ils ont renoncé au jeu sur les 10-15 dernières minutes.
Ils avaient peut-être pas les armes, mais
quand t'as l'égalité, t'as des joueurs comme ça, tu sais normalement.
Ouais. Mais tu vois comme dit Yacine, c'est que tu vois ils ont pas été bons les Belges par rapport au potentiel, mais ils ont quand même fait la différence parce que t'as 2, 3, 4 joueurs qui font partie des meilleurs joueurs du monde.
Là tu te dis quand tu vois ce match-là,
C'est le Danemark. Ils ont bien joué. Ils sont un peu choqués par rapport à ce qui s'est passé contre la Finlande. Et donc ça donne des signes par rapport à la performance que peut avoir la Belgique dans cette compétition. Ça veut dire que s'ils tombent sur une équipe un peu plus élevée en termes de niveau, tu peux dire qu'ils peuvent se faire un peu plus titiller.
C'est vrai, mais le contexte est quand même, je pense, quand même particulier par rapport justement à ce qui s'est passé. Et tu peux aussi te dire que la Belgique, en étant pas bon, on quand même réussi à faire la différence avec les rentrées d'Hazard et de De Bruyne. Claude. Donc, mais ce que tu dis, Valentin,
je suis totalement d'accord avec toi, Claude. Pourquoi? Parce que c'est rare que dans les matchs, la Belgique soit en difficulté.
Elle passe rarement à côté quand même.
Elle est en difficulté. Souvent, là, c'est un changement de match qui fait que, voilà, elles ont pas eu forcément la balle. Elles devaient revenir au score, mais elles sont rarement au pied du mur. En général, ils gèrent assez bien les débats. Maintenant, s'il y a 2-3-0 pour le Danemark en première mi-temps,
il n'y a pas photo.
Maintenant, comme dit Dien, je pense qu'à l'expérience, ils ont su faire la différence. Et il y a l'expérience, mais il y a aussi les trois joueurs qui sont censés être titulaires qui rentrent. La personne de Witzel, Eden Hazard et De Bruyne. Ouais. Tu vois vraiment que, on se ferait allusion à cette phrase de Roberto Martinez qui a dit que c'était plus facile de créer un plan de jeu en sélection parce que tu appelles plus souvent les mêmes joueurs qu'en club quand tu es entraîneur d'un club. Donc, je pense que voilà, il est sûr de ses armes, il est sûr de ses forces quand il fait rentrer ces trois personnes qui sont blessées.
Pas forcément. Voilà. Pas forcément. Parce tout à l'heure, Valentin a souligné quelque chose, c'est que lors des 15 dernières minutes, la Belgique, pratiquement, on va dire, ils ont tout fait pour conserver le résultat, parce que les changements qu'a fait l'entraîneur de la section belge a déstabilisé un petit peu le bloc de son équipe, ce qui a permis peut-être aux Danois de pouvoir reprendre un dernier baroud pour essayer d'égaliser, peut-être gagner. Et ils n'ont pas eu de chance, parce que le football, des fois, la chance existe encore.
Eh oui, la Macédoine. On respecte aussi la Macédoine, la dynastie.
Il faut respecter.
L'histoire aussi, l'histoire, Yacine, de la Macédoine, avec Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, qui bâtit aussi son empire, vaste, assez vaste, qui a là, de cette dynastie des Argéades jusqu'à les Hachémides.
Il faut savoir
des
que...
Des Perses. Non, mais vraiment.
Il faut savoir que l'Empire
ottoman... Merci Yacine. On n'a plus le temps. On va revenir à nos joueurs,
à nos histoires
de France. Voilà, mais si tu veux, à nos histoires, à nos stories, ce que tu veux, à nos sujets. Et de suite après la dernière pause, on parlera là aussi avec toi Valentin de LeBron James, de la NBA, de ses playoffs, sans oublier du match de ce soir qui opposera le Pays-Bas à l'Autriche.
Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
De retour sur l'antenne de Beurre FM pour cette dernière partie de cette émission Time Foot jusqu'à 21h. On est ensemble, chère auditrice, et auditeur de Beurre FM. Voilà, on fatigue un peu, c'est la fin de la journée. Désolé, chère auditeur de Beurre FM. Mais oui,
tu fais un gros travail, Bilal. Gros travail.
On est levé depuis 6h du matin quand même. Ouais.
Moi, je refais encore.
Mais
il est réveillé une demi-heure avant toi.
Toujours. Que tu dises que tu te lèves à 4h du matin, 3h30 du matin pour toi. C'est toujours pareil. Que tu dises que Zidane, c'est le meilleur, tu vas me sortir.
Et tu as dormi avec moi pour savoir à quelle heure je me suis réveillé.
Ok. Allez, on va parler de l'équipe de France.
Time Sport. L'actu bleu. L'actu bleu.
Yacine, on rend un service, faut pas l'oublier, pour nos auditeurs, pour les auditrices de Beurre FM, faut le rappeler aussi, à travers cette émission. Voilà, ça fait sourire Fala, Mourad encore, même Mamadou, voilà, qui nous écoute ce soir. Tu as le bonsoir de Mamadou.
Il a la radio qui marche, Mamadou. Il a enfin son transistor qui marche.
Il avait oublié
d'acheter des piles pour son transistor.
Les Bleus avec toi, Diane. Alors, Diane, notre consultante. En cas de victoire, ce samedi, les Bleus pourront filer en 8e de finale. En cas de victoire face aux Hongrois.
Exactement. La France est bien arrivée en Hongrie avec tout le collectif. Bon, on a juste quand même Kingsley Coman qui a eu l'autorisation, malgré toutes les restrictions sanitaires, de rentrer parce qu'il vient d'être papa et d'assister à la naissance de son enfant. Donc ça, c'est plutôt,
félicitations.
voilà, les félicitations sont de rigueur, donc félicitations à lui. L'entraînement du jour a été plutôt léger. On a pu voir que Varane, Kimpembe, Rabiot, Benzema ont juste fait un petit footing tranquille aujourd'hui, pendant que le reste de l'équipe faisait un petit taureau. Je crois qu'on a vu un petit peu Griezmann également s'amuser dans les cages. Une équipe qui montre un petit peu qu'elle est loin de toutes les polémiques qu'on peut entendre et que certains journalistes aiment bien ramener un petit peu sur le tas entre ce qui a été dit entre... je perds mes mots.
Giroud, Mbappé,
entre autres. Voilà.
Cette petite guéguerre.
Donc cette petite guéguerre semble terminée, en tout cas au sein de l'équipe.
Ouais.
Donc voilà, pour ce qui est de la petite nouvelle... de l'équipe de France et Kingsley devrait être de retour pour jouer face à la Hongrie.
Voilà, et on peut se promener tranquillement sur la French Riviera, quoi. On se soucie pas de cette équipe de France, tranquillement. Jien, non, moi j'aimerais être tout comme toi, mais je sais pas. Ouais, je sais pas. Tout à l'heure, tu me parlais de Johan Cruyff. Moi, ça me fait penser cette Hongrie à faire un Puskás aussi. Ah. Ouais, de prendre de haut, des fois certaines nations.
Farence Puskás.
Ça va, il n'y a pas de problème.
Il y a Coxis.
Ouais, aussi. Alors justement, on t'a pas entendu.
Toi, le spécialiste de la Hongrie.
Exprime-toi, non pas sur la Hongrie. Après, on aura aussi LeBron James sur cette équipe de France.
Bah, elle a pu montrer contre l'Allemagne qu'elle était fidèle à elle-même en termes de philosophie de jeu. Parce que sous l'ère Deschamps, on voit cette équipe de France qui a peu d'occasions par rapport à son adversaire, mais qui est toujours très efficace. Et défensivement, qui a une organisation qui comble l'espace exploitable par l'adversaire d'une manière assez remarquable. Et ça montre la solidarité qu'il y a entre les joueurs. Il y a un vrai truc qui s'est construit depuis la Coupe du Monde 2018. C'est là on retrouve à peu près les mêmes joueurs, presque sur le terrain, à quelques exceptions près.
Ouais,
en tout cas, en termes de production de jeu et de mouvement, d'espace retrouvé, c'est à peu près la même équipe de France qu'on a pu voir déjà ces derniers mois. Et contre l'Allemagne, cette solidité elle va servir contre d'autres grandes nations. Plus tard dans la compétition, alors que contre la Hongrie, ça va être largement plus, ça va être différent en tout cas. Il faudra être beaucoup plus offensif. On portera le ballon beaucoup plus que contre l'Allemagne. Donc c'est un tout autre match, tout autre adversaire. Donc là, l'approche tactique contre la Hongrie, c'est pas du tout la même chose que contre l'Allemagne.
Sans faire offense, aux Hongrois, c'est vrai qu'on a, on attend autre chose de l'équipe de France face à l'Allemagne. Valentin l'a bien dit, hein, dans le jeu sans ballon, ils ont été franchement, ils ont été extraordinaires.
Et avec le ballon, ils étaient pas bons.
Ils ont été extraordinaires. Ouais, même le jeu sans ballon, c'est ce qui est le plus important. Quand tu vois le travail qui a été fait de la part des trois de devant, alors moi j'ai entendu différents commentaires. Pogba qui a été monstrueux, Missile a été monstrueux. Mbappé, c'est parce que Griezmann, Mbappé et Benzema ont été les premiers défenseurs et ça te permet, ils ont colmaté les brèches, ils ont fermé les angles de passe de la part des Allemands. Maintenant t'as ce match contre la Hongrie. Voilà, on attend un match plein et sérieux de la part de nos Français. Faire preuve d'humilité. Ça devrait passer, mais les Hongrois ont mis quand même les Portugais
en difficulté pendant 80 minutes
alors qu'ils étaient là-bas au Portugal. Donc attention.
Si c'est pas les replis défensifs, s'il y a un seul joueur de champ qui ne le fait pas, c'est complètement différent. Pour le coup, il y a 10 joueurs de champ qui sont concernés.
C'est vrai, mais si tu compares à la Coupe du Monde de 2018, par exemple, Mbappé était beaucoup plus laissé devant. Il y avait moins de repli défensif de sa part. Après, je pense qu'il y a une maturité. Je pense que en club aussi avec Pochettino, c'est quelque chose qui lui a apporté. Bon, on est sur les sélections nationales, mais voilà. Après, par rapport au groupe, je pense que c'est une chance d'enchaîner ce genre de match. Ça veut dire que tu entres tout de suite dans la compétition face à l'Allemagne pour te mettre directement dans le bain. T'as un statut de champion du monde à faire respecter. Tu te dois d'être au top directement. Après, t'as la Hongrie qui est, c'est vrai, un adversaire un peu plus faible aussi parce qu'il leur manque leur star Szoboszlai qui est quand même important et qui aurait pu apporter quelque chose durant la compétition. Et t'as l'occasion de faire 6 points en 2 matchs et d'après continuer à faire vivre ton groupe lors du 3e match face au Portugal. Le Portugal
qui ressemble un peu à la France sur
comment ils jouent, mais je pense que le Portugal est beaucoup plus affaibli que lorsqu'ils ont gagné en 2016 ou même en 2018. Et ce 3e match, pour l'honneur, parce que c'est la dernière fois que la France a perdu en finale, c'était contre eux. Donc
ce sera un match où on dit que les coiffeurs entre guillemets vont jouer sans manquer de respect, mais ce sera aussi un beau match. Après,
tu sais, quand on a des coiffeurs comme Dembélé, Coman, Giroud,
moi je Tolisso, moi je ne suis pas dans les petits papiers de
ça fait plaisir.
Je ne suis pas dans les petits papiers de Deschamps, mais il faut savoir que l'équipe de France ne ressemble aucunement à l'équipe de France qui a fait la Coupe du Monde. Il faut savoir déjà qu'il a mis un nouveau système de jeu. Ce n'est plus le 4-4-2 rollonge qu'il a mis en place contre l'Allemagne. Il a mis un 4-3-3. La France a joué offensivement. Ils ont été très adroits techniquement. Donc même si à un moment donné, l'Allemagne a eu plus la possession de balle, parce que je pense que ça a été l'un des moyens, des matchs les plus moyens que N'Golo Kanté a fait, parce que c'est le milieu de terrain allemand qui a pris le dessus. Ils ont c'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup plus la possession de balle. Avec un N'Golo Kanté des grands jours et un Mbappé et un Pogba qu'on a vu ce jour-là, je pense que la France aurait mangé l'Allemagne, parce qu'il faut savoir aussi, il faut remettre en cause les erreurs d'arbitrage. Il y avait pénalty sur Mbappé, donc la France aurait marqué 2-0 sur le but de Benzema. Moi je suis très sceptique sur le hors-jeu. Donc c'est ce qu'il faut signaler. L'Allemagne certes peut-être a été à un moment donné, on va dire, ils auraient pu sur l'action de Gnabry peut-être pouvoir marquer. Il a techniquement
aidé par l'arbitrage aussi, la France quelque part aussi.
Elle n'a pas été aidée.
On voit le coup de pied que Kimmich donne à.
Ben oui. Aussi, normalement, ça c'est déjà un carton rouge.
C'est le penalty qui doit être sifflé. Bon après, c'est il y a eu un débat.
C'est ce que je suis en train de dire. C'est pas autre chose. C'est ce que je suis en train de dire. Donc
je le contredis pas du tout.
Donc l'équipe de France aujourd'hui, je pense qu'il y a aucune nation qui possède le potentiel. Il y a plus de coiffeur, parce que pour utiliser comme l'a dit Claude Tollet, pour dire de Dembélé qui fait partie des 4 voire 5 meilleurs attaquants du monde, dire coiffeur, c'est longtemps, je pense qu'il n'ira plus jamais chez le coiffeur.
On a quand même dit que quand t'as des coiffeurs du niveau de Dembélé,
je pense que dans la tête de Deschamps, l'expression sans être dans ces petits papiers, il n'y a pas de coiffeur dans cette équipe de France. Celui qui sort et celui qui rentre, je pense c'est
le même niveau.
C'est peut-être que même il y a des remplaçants qui sont même supérieurs aux joueurs qui sont sur le terrain.
Juste une dernière chose avec ce qu'on a vu en match de préparation, une équipe de France qui joue au ballon, on était assez surpris.
Contre l'Allemagne, ils ont joué beaucoup au ballon.
Ce niveau, mais là où je veux en venir, c'est plutôt, c'est vrai, la qualité de jeu était là, mais le système, on les a vus jouer en 4-4-2 losange. Là, ils ont joué en 4-3-3 parce que c'était un match, une entrée en compétition face à un gros. Il fallait gagner, il fallait mettre en jeu.
Avec l'arrivée de Benzema, il fallait changer le dispositif, automatiquement le dispositif tactique.
Mais c'est plus par rapport à la suite, justement, au prochain match.
Ouais.
Je pense que le fait de jouer face à la Hongrie et d'avoir déjà gagné le premier match, on peut retrouver cet ADN qu'on a vu lors des deux matchs amicaux. Et au Portugal, si on est déjà qualifié, continuer à avoir une équipe de France jouer au ballon. Mais après, si on se qualifie, justement, je pense qu'on reviendra plus à un système comme on a vu lors de.
Même avec deux victoires, tu n'es pas sûr de te qualifier. Attention.
Time Sport. La troisième mi-temps.
Eh oui, Valentin, c'est LeBron James justement qui a franchement critiqué la NBA mercredi après l'annonce du forfait, excusez-moi, de la star des Clippers, Leonard, dernier joueur à être écarté des playoffs pour cause de blessure, et il les avait prévenus en plus. En début de saison.
Ça fait 9 joueurs All-Star.
Ça fait beaucoup.
9 grands joueurs.
Et il a dit, je vous l'avais dit.
Ils sont absents. C'est une première dans l'histoire de la NBA que 9 All-Star soient absents dans les playoffs. Il l'avait dit, comme tu as dit, Bilal, en amont. Et quand un joueur qui est autant dans la compétition et qui veut autant gagner et qui veut avoir une saison, il veut jouer des matchs, quand il dit ça, c'est que physiquement, il s'est concerté avec d'autres joueurs. Il sait que c'est pas possible. Parce qu'il avait fini la saison en octobre. À peu près qu'on avait gagné avec les Lakers, et puis il reprend, il a eu un mois et demi, deux mois de coupure, et il reprend directement avec presque le même nombre de matchs qu'une saison classique. Là on est passé de 80 à 70 matchs, mais ça fait énormément de matchs quand tu passes de mi-décembre à mai à peu près,
mai-juin,
c'est énorme dans les jambes, et au basket tu joues beaucoup plus qu'au foot. Après là on revient sur le même sujet qu'on a dans le foot ou dans d'autres sports, c'est que aussi, là on maximise le nombre de matchs pour plus de profit, parce qu'on veut boucler la saison à tout prix. Et donc ça, c'est problématique. Il faut penser aux sportifs et à leur santé.
Ouais, c'est le football business.
Dans le milieu du basket, il y a quand même un syndicat de joueurs qui est très puissant.
Ouais.
Donc ça, il faut le savoir, comme dans le milieu de la boxe ou autre. Après, le souci, c'est quand on en arrive à ces dérives-là qui sont dues en fait, uniquement à la crise sanitaire. Donc il faut savoir en fait, qu'une préparation physique
Moi, une année, ça se prépare en termes de préparation physique sous forme de cycle. Et quand on a écourté comme ça la saison, le cycle le plus important, qui va être le cycle où on va travailler justement la force et le renforcement musculaire et solidifier les tendons, c'est un cycle qui n'a pas pu avoir lieu pendant cette année, ou en tout cas qui a été très très court. Donc certains joueurs ont pu, parce qu'ils ont eu des préparateurs physiques à domicile pendant le Covid pour pouvoir faire ça, mais on va arriver à ce même problème là actuellement avec le foot, parce que les joueurs sont en train d'enchaîner, etc. Et en début de saison, là, fin août, je pense qu'on aura aussi énormément de joueurs qui vont être blessés, fatigués, affaiblis, etc. Mais dans le milieu du basket, comme dans les autres milieux, c'est vrai que les droits TV prônent sur le reste. C'est ça qui est dommage. Donc c'est pour ça qu'on veut boucler les saisons. Et on en arrive à ces dérives de joueurs qui sont malheureusement blessés. Et ça peut être très grave, parce que pour certains, ça peut être une fin de carrière suite à une blessure, et donc remettre en cause un peu tout.
Les pronostics du match de ce soir, 21h, Pays-Bas, Autriche, avec toi, le coach Tollet.
Victoire de l'Autriche, un partout.
Un partout, ouais. Valentin, ton prono ce soir.
Sur un match nul, deux partout, avec un peu plus de buts.
Ah ouais, il y aura des buts. Pour Abdel.
On va dire 1-0 pour les Pays-Bas.
Pour les Pays-Bas. Et toi, Yacine.
Victoire de la Hollande, 3-0.
3-0, facile donc. Il y aura des buts aussi pour les Hollandais.
Bah, ouais, oui.
Voilà, il est avec eux.
Moi, il n'y a personne type de. Ah, si, quand même.
On bien sûr,
le meilleur pour la fin.
Mais Gian, quand même.
Moi, je vois un match nul un partout.
Ah, ben un partout. Mais quand même, Gian, tu crois qu'on t'a oublié? Franchement. Mais non, Gian.
C'est Yacine, il parle tout.
Mais non. Mais... voilà, c'est le tacle à la gorge de Gian en cette fin d'émission. Envers Yacine.
High kick.
Yacine,
vous avez dit quelque chose?
Ouais, non, il est là, Yacine.
Vous
restez
entendu quelque chose
à l'écoute. Ah, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Et nous, on se retrouve dès demain pour la dernière de la semaine à partir de 19h. Bye bye et bonne soirée.
Retrouvez Time Foot, spécial Euro 2021, du lundi au vendredi de 19h à 21h sur Beurre FM.